I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il paraît que vous aimez bien les digressions.
Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast?
J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde.
C'est vrai que t'as des beaux cheveux.
C'est vrai que t'as des beaux cheveux.
T'es jamais les pieds à l'air.
Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein.
Si vous pensez que je l'ai jamais fait, vous vous trompez beaucoup.
Je vais te parler comme ça dorénavant.
Oh, c'est condescendant.
Personne te fait chier ici, on est dans un safe space.
Non.
It's drums time, bitch.
Je pleure.
Démonte. N'arrêtez pas d'écouter, laisse-moi kiffer.
Jamais, n'arrêtez jamais.
Mais ne vous disputez pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose.
Ah bon? Quoi? Hein?
Il y a un générique?
Bon.
Hello,
Paris.
Cette saturation ne m'avait pas manqué. Aujourd'hui,
ouais,
j'anime LMK parce que Mimi est malade, que Manon, qui était censée être là, est malade, Kalindi est coincée. Vous comprendrez donc, on est dans un LMKO, finalement.
LMK3.
Absolument. C'est l'épisode, je crois, 213, mais j'en suis pas certain parce que vous l'avez remarqué, on a diffusé pas mal de LMK qui ont été tournés à peu près en 2002, c'est-à-dire quand Anthony est né. Et qui sortent que maintenant. Donc, absolument. Et du coup, tout ne fait pas forcément sens quand on parle. On est en mode ah, attention, à la semaine prochaine, etc. Tout ça n'a aucun sens. Ce LMK a été tourné, nous sommes le mardi 15 novembre. Et donc, ce sera a priori le LMK 213. Et pour accueillir cette équipe de folie de trois personnes, j'ai proposé cette super question Le Monde veut savoir, qui est quelle est votre routine du soir? On parle souvent de la morning routine et Anthony a une morning routine meilleure que nous tous réunis.
Qui sera en lien de cet épisode dans la description, checkez, elle est sur mademoiselle.com.
Que je ne lirai pas parce que j'ai pas envie de devenir une meilleure personne.
Voilà, et du coup je voulais savoir quelle était votre night routine. Peut-être Anthony, tu peux commencer.
Oula, alors, il faut savoir que je prends mes douches le soir, voilà, le monde veut savoir ça aussi.
Attends, tes douches?
Enfin, ma douche, quoi.
Ouais,
je prends une douche tous les soirs.
Sophistiqué.
Pas tous les matins.
Ça, c'est une bonne question, le monde veut savoir aussi, genre, team...
Douche du matin ou du soir?
Douche du matin parce que ça réveille, ou douche du soir parce qu'il faut enlever la saleté du métro, tu vois.
Mais moi, je suis grave team du soir, et d'ailleurs, je pars souvent en vacances avec mes meilleurs potes et moi je dors que dans le lit de ma meilleure pote, qui est un mec, le pauvre. Et du coup.
Quoi? Mais du coup, il dort où?
Ailleurs.
Waouh!
un mauvais film français ou d'Almodovar.
Tous les films avec Louis Garrel.
Les Amants Imaginaires de Xavier Dolan.
Oh oui, ça marche aussi.
Mais parce que du coup, elle et moi, on se douche le soir. Et donc, on préfère être propre dans notre lit et laisser les gens qui se douchent le matin être sales dans leur lit à eux. Et voilà, mais je m'égare, ce que je veux dire, c'est que, et oui, le matin, je me lave le visage avec de l'eau glacée, parce que ça resserre les pores et ça réveille. Bref, je m'égare, ce que je veux dire, c'est le soir, je prends ma douche, après avoir dîné. Et déjà, dès que je rentre, j'enlève mes vêtements de l'extérieur, je mets mes vêtements d'intérieur. Ensuite, je fais ma petite vie, je dîne. Après, je prends ma douche longue, très chaude. Et ensuite, je fais bien
excitée,
attention.
J'ai envie de dire n'importe quoi, là, j'ai envie de faire des blagues sur longue et très chaude. Enfin, vraiment,
waouh!
Pardon.
Après...
Ça fait longtemps que je suis pas venue dans LMK, j'ai envie de parler tout le temps.
C'est parce qu'on est dans une ambiance tamisée. C'est dans une ambiance tamisée.
Ça a changé.
Et oui. Le studio a changé.
C'est sonorisé, genre. Mais c'est l'impression.
Alors qu'on a enlevé tous les trucs qui servaient à insonoriser. Vraiment, la vie n'a aucun sens.
Ouais,
audio description, jusqu'ici, on tournait ce podcast dans un endroit qui ressemblait à un cagibi.
Oui.
Entre des trucs qui servent à insonoriser les murs mais qui étaient posés par terre.
Un vélo,
trois lampes et des bouts de.
Truc.
D'outils technologiques qui n'avaient pas de sens.
Et un canapé avec les ressorts qui ressortent dans nos fesses.
Ah, je crois qu'il
ça, c'est
là.
Toujours vrai.
Ah oui, pardon, désolé Mathis. Non, mais c'est le bisoutage pour faire défoncer les...
yes.
Mais on y reviendra. Du coup, je prends ma douche longue et chaude. Non, je l'ai redit la même
chose. Tu m'entends maintenant?
Je m'en étais pas rendu compte. Non, j'ai pas placé la marque parce que je suis pas payée.
yes.
Mais du coup, après ça, surtout c'est important de faire une température différente pour le visage et pour le corps, sinon vous allez enlever tout le sébum positif pour votre visage. Bref, je m'égare. Et du coup, après la douche, du coup, c'est une essence ou un tonique sur le visage. Après, c'est un sérum. Après, c'est du rétinol. Après, c'est une crème de nuit. Et après, c'est le baume à lèvres. Et pour le corps, bah, lait corporel, sur tout le corps, parce qu'en fait, j'ai une peau très atopique, je suis très sujet à l'eczéma. Après, c'est tisane. Et après, je vais me coucher. Et là, c'est hyper important. Je pense que c'est hyper important d'avoir un rituel pour s'endormir. Et parce que votre corps, il comprend que vous allez vous coucher et du coup, vous endormez comme ça, direct. Et moi, vraiment, genre...
Alors là, j'écoute.
J'ai une brume d'oreiller à la lavande que je spray sur toute ma literie. Et j'ai une tête d'oreiller en soie.
Je suis grave princesse. Dans une pub. On dirait une pub pour le parfum, genre dans lesquelles j'ai envie d'habiter, alors que moi, je suis en mode, ah ouais, je dors sur mon chat et puis mon mec, il me met un coup de coude et c'est pas grave, on va bien dormir cette nuit. Tu vois.
Ma vie est chaotique, sauf les éléments ultra, ultra routiniers, genre le petit déj, la morning routine et la night routine.
Mais Stéphane Bern, il pourrait raconter ta vie dans une soirée spéciale, c'est fou.
Non, parce que ma chambre, c'est un bordel, genre. Mais mon lit...
Ça, il le sait pas. De toute façon, il commet des erreurs historiques, donc il pourra se tromper là-dessus.
Enfin, je veux dire, elle est bordélique, c'est pas un bordel, il y a... Bref, qu'importe.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a de la soie partout. Tout guirait.
Bah, du coup, justement, j'ai un masque pour les yeux en soie, mais avant de mettre le masque pour les yeux en soie...
C'est écrit quoi dessus ?
Il y a rien écrit dessus.
Oh.
Mais eh ben, avant le masque pour les yeux en soie, j'ai un autre masque qui est le même que Audrey Hepburn porte dans Breakfast at Tiffany's. Et en fait, il est, je le mets sur mon front le temps de m'endormir. Et quand je sens que le soleil arrive, je change de masque pour mettre celui en soie et je le mets sur mes yeux.
Pourquoi ? Wow. C'est quoi la différence ?
Parce qu'en fait, celui de Audrey Hepburn, j'ose pas le laver. J'ai peur qu'il s'abîme. Et du coup, alors que celui en soie, j'ai l'habitude de le laver. Donc il est un peu détendu et donc il est moins serré. Donc ça me sert moins le visage et donc c'est encore mieux pour dormir.
Mais celui que t'as sur le front, il sert à quoi du coup ?
En fait, j'ai souvent mal à la tête. Ah. Et du coup, je sais pas, ça me dispense d'avoir à poser ma main sur mon front.
Ok.
Parce que quand j'ai mal à la tête, je mets ma main sur mon front. Et voilà. Wow. Ah oui, et du coup, à ce moment-là, genre, je mets de la crème sur les pieds. Après, je mets des grosses chaussettes. Et quand je sens le sommeil arriver, je retire les chaussettes. Et là, je m'endors.
J'ai l'impression que t'es une horloge suisse. Tu vois, genre avec tous les petits rouages à l'intérieur et les...
Et du chocolat.
Les choses...
Pardon, je connais rien à la Suisse.
Non, mais tu sais, c'est des trucs hyper complexes et ils sont là. Alors là, on a mis 45 mécanismes qui ensemble atteignent la perfection de l'humanité et tout.
C'est j'ai parce l'impression qu'ils s'emmerdent. Que c'est pas routine. Ils ont que ça à faire. Tu m'étonnes qu'ils ont des trucs compliqués en termes d'horloge, tu vois. Il se passe rien.
Ouais, je voulais pas mettre un scud à la Suisse sur la route, mais bon. C'est ma passion, donc je peux le faire si vous voulez.
J'adore les Suisses et les Suissesses, enfin, vraiment c'est trop bien. Il y a un super festival féministe, mais qui sera peut-être fini au moment où sortira cet épisode, ça s'appelle Les Créatives, c'est trop trop bien.
Ça sera la semaine prochaine, normalement l'épisode.
Ouais, je pense que ce sera terminé. Cette édition, je crois qu'il y avait Gloria Steinem en marraine du festival, et c'est incroyable leur programmation, il y a plein de choses qui sont rattrapables sur leur site et leur Instagram, etc. Donc allez checker, ça s'appelle Les Créatives. Festival Suisse, voilà. Et donc oui, en fait,
big
ça a l'air hyper compliqué. Ouais, big up la Suisse, on vous adore. Ça a l'air hyper compliqué dit comme ça, mais en fait, ça me prend vraiment 15 minutes hormis la douche. Et vraiment, ça fait que je m'endors toujours. Et je dors super bien. Et vraiment, après, le seul défaut, enfin, le principal défaut que j'identifie, c'est que si je ne suis pas chez moi, et si j'ai pas tous les éléments, tous les accessoires qui font que je m'endors direct, et ben vraiment, je dors pas.
Ah ouais ?
Et c'est pour ça que je déteste ne pas dormir chez moi.
Ok.
Mais ça m'arrive peu. Voilà.
Waouh!
Le bouquet de mes célibataires.
On n'aurait jamais dû commencer par toi parce que la barre est tellement haute. Moi, je suis en mode. Alors, moi, je dors sur un pneu avec mes amis les rats et je me lave les dents avec des morceaux de jointure. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Donc, à côté, j'ai l'impression.
On fait tous de notre mieux.
Ah, non, mais moi, je dors comme un gros bébé et j'ai même pas besoin de bouquet. J'ai de la chance à ce niveau-là. Mais je dors vraiment à 23h pile, lumière éteinte. Et à 7h, je me réveille, mais comme une fleur, quoi. Et j'ai un sommeil, mais tellement réparateur. Vraiment, ma meilleure vie. Enfin, voilà, j'arrête.
C'est fou. T'es ma némésis du sommeil. Votre sommeil. Ouais. Faut que j'arrive à faire ça.
Enfin, je pense, c'est mon petit conseil pour mieux dormir.
Aïda, c'est quoi ta routine du soir ? Je suis fatiguée d'avoir posé cette question.
Mais en fait, j'ai pas trop de routine du soir, parce que un jour sur trois, je suis bourrée. Et
Yes ! Je suis content que tu passes avant moi.
Et du coup, ça veut dire que les lendemains, j'ai la gueule de bois. Je trouve que, non, en vrai, je suis pas vraiment pour un jour sur trois, mais je vais régulièrement boire des coups après le travail, ce qui fait du mal à mon budget et aussi à mon sommeil. Mais j'ai du mal avec le rituel du soir, justement. J'ai vachement de mal avec le fait de m'imposer des routines fixes. C'est super dur dans ma vie, j'essaye tout le temps, tous les mois, je me dis j'ai changé ce mois-ci, je vais faire ce truc-là toutes les semaines. Et en fait, s'il n'y a pas quelqu'un pour me forcer à faire des choses de manière régulière, je les fais pas. Il n'y a que le travail que j'arrive à faire tous les jours et c'est parce que sinon je ne peux pas manger et payer mon loyer. Et du coup, j'ai un rituel du soir un peu chaotique. Déjà, j'arrive jamais à la même heure chez moi. J'ai pas tant de... Je suis team, j'enlève mes vêtements sales de l'extérieur aussi dès que j'arrive. Déjà, ça c'est un truc que je fais. Ensuite, je fais la bise à mon chat, parce que mon chat m'attend pour me faire la bise tous les jours, parce que je lui ai appris à être poli. Après, c'est vrai, il met sa truffe à droite et à gauche et tout. Il sait vraiment bien faire la bise.
C'est vraiment une bise.
Ouais, genre il met sa truffe sur ma joue gauche, sa truffe sur ma joue droite.
C'est quelle région ?
C'est adorable.
C'est quelle région de bise ? Il y a combien de bises ?
Mon chat, il est lyonnais. À mon grand dame, mais bon, c'est moi qui l'ai élevé, quoi.
C'est deux bises,
Lyon. Ouais, deux bises. Okay. Sauf quand il est needy, mais en général, je lui dis d'arrêter, tu vois. Je suis en mode, non, trois, c'est trop. Faut faire de la rétention d'affection.
Ouais, trois, on est sur de la champagne ardenne.
Ce que tu dis.
Non, c'est pas vrai. Je fais aucune rétention d'affection avec mon chat, qui est mon fils. Bref, après avoir fait ça, et bah, c'est du... Alors, les jours où je suis en pleine forme, donc le jour sur trois où je suis ni bourrée ni j'ai la gueule de bois, je lis, je me fais un truc trop bon à manger avec des légumes et tout. Les deux autres jours, je mange pas ou alors je mange n'importe quoi ou alors mon mec a fait à manger et du coup ça va. Et après, pour essayer de m'endormir, j'ai un peu le truc de faire ma skincare routine avant de dormir aussi, mais c'est une skincare routine médiocre parce que je perds mes produits chez moi régulièrement. Du coup, je me lave le visage. Après, je mets un toner. Si je trouve mon tube de rétinol, je mets du rétinol. Si je le trouve pas, je me dis non, mais il n'y a pas besoin d'en mettre tous les jours. Ça va t'abîmer la peau, tu le chercheras demain.
Ça fait trois semaines.
Ouais, souvent. Et après, je mets une espèce de crème hydratante quand même, enfin ma crème de nuit. Et après, bah écoute, c'est l'anxiété quoi. Je m'allonge dans mon lit. Y a mon chat qui vient, du coup ça c'est cool. Mon chat il a une meilleure night routine que moi, donc lui il est plus réglé. Quand il vient se mettre sur mon côté du lit, je sais que c'est l'heure d'aller me coucher et tout, c'est pratique. J'ai essayé d'arrêter là récemment de m'endormir devant des trucs. J'avais la sale habitude de dormir devant des films, des séries et tout, et en fait mon sommeil était à chier. Et en plus bah, c'est une mauvaise habitude parce que je regarde pas les choses, enfin bon. Du coup, tous les soirs, je regarde les 5 premières minutes du même film. Enfin bref, ça m'apporte rien. Et je pense que je dormais mal. J'ai pas réussi à remplacer cet écran-là par rien ou un livre, comme une personne cultivée et tout. Du coup, je scrolle sur mon portable. Mais au lieu de scroller Instagram ou Twitter, que je trouve anxiogène, je vais sur Reddit et je vais lire les pires histoires de Reddit. Genre, en général, c'est que des histoires de mecs qui trompent leur meuf. Du coup, je lis ça, et après, j'ai envie de dormir, mais d'abord, je regarde mon mec de travers, mon mec qui dort très bien à côté de moi. Je le regarde mal, parce que je me dis, ça se trouve, il fait ça, alors que, bon, probablement pas. Et après, je me dis, oh, c'est fou quand même tout ce qui arrive d'affreux aux gens de Reddit. Et après, je m'endors avec les poings serrés. Et j'ai quand même un sommeil réparateur, tu vois. Je dors 8 heures par nuit et tout, ça va. J'ai pas de problème avec le bruit.
On se répare dans la colère ici.
Je me réveille avec les sourcils froncés.
Oui.
Puis je commence ma journée, ça va.
Wow. Voilà,
c'était l'explication la plus laborieuse de ma vie, mais
on comprend.
J'ai essayé, je fais de mon mieux. Si vous avez des trucs positifs à m'envoyer pour dormir, n'hésitez pas.
Ok.
Et toi, Mathis ?
Ouais, je fais un peu partie de ces gens qui ont du mal à avoir une routine, que ce soit sur le soir ou à tout autre moment de la vie. Enfin, globalement, ma routine, c'est je fais ce que je peux. Voilà, je sais que, enfin, je rentre. Pas toujours chez moi et pas toujours aux mêmes heures, donc déjà j'en chie à avoir un rythme par rapport à ça, parce qu'à chaque fois je suis un peu en mode bah on va s'adapter. Genre il y a des fois où vraiment je rentre, je suis en mode j'ai même pas l'énergie d'aller manger et du coup je vais tomber globalement sur mon lit. Enfin, matériellement c'est pas possible parce que mon lit est dans une mezzanine, donc il faut que je grimpe avant que je me laisse crever jusqu'en haut, mais bref. Et puis du coup ça dépend aussi de si j'ai Ruby en garde, parce que du coup ça change pas mal de choses, parce qu'il y a la balade du soir et quand elle est pas là, bah je fais pas forcément les mêmes soirées, et voilà, je vais pas être aux mêmes endroits. Moi je suis plutôt team douche du matin, j'avoue, je suis désolé, pardon si je suis sale, mais du coup l'avantage c'est que j'ai pas mes fringues de la journée dans l'espace lit, dans le sens où comme il est dans la mezzanine en haut, j'y monte vraiment au moment où je vais me coucher. Du coup, j'avoue mon canapé à mes fringues sales peut-être de la journée, parce que je tombe sur mon canapé, c'est globalement la première chose que je fais en arrivant, je pense. Mais je fais tout à vélo, donc faut dire que je suis fatigué à la fin de chaque déplacement.
Et t'as pas la saleté du métro, ce qui est quand même vraiment, oui, moi, le truc qui me gêne le plus.
Par contre, ah oui, je me lave les mains.
Le dépôt d'échappement, ça compte quand même, non ?
C'est vrai. Bah, je me lave les mains et je me lave le visage, globalement. Ça fait partie du premier truc que je fais en arrivant.
Ouais,
enfin, partout où j'arrive, de toute façon, je me lave toujours les mains, genre je fais un zinzin là-dessus. Mais les guidons des Vélib me dégoûtent un peu. Enfin, je sais pas combien de gens ont... Bon, bref. Du coup, après ça, bah, ça dépend à quel point je traîne, mais je traîne beaucoup parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire cette journée est terminée et t'as pas fait un quart de tout ce que tu voulais faire. Et du coup, j'ai vraiment du mal à faire ce deuil de ça y est, c'est terminé. Sachant que le problème, c'est que moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc, en fait, c'est un peu irréconciliable, c'est que j'ai besoin à la fois de beaucoup de stimulation, beaucoup d'activité, et à la fin de la journée faire un bilan en mode waouh, j'ai construit 3 Titanic aujourd'hui, et j'ai besoin paradoxalement de 14 heures de sommeil globalement pour être correct le lendemain, et évidemment ça n'arrive pas.
La recette pour être heureux quoi, des ambitions inatteignables et le non-respect de sa santé physique.
Vraiment on est sur Sisyphe, mais genre vraiment le boulet, on est tout en bas avec le boulet, et en plus c'est genre l'Auvergne, voilà, l'enfer. Et du coup bah après, arriver dans le lit, bah, c'est un peu comme toi, c'est beaucoup d'anxiété. Donc moi, je lis pour le coup un petit peu. Et au général, je me rends compte que je suis très fatigué à ce moment-là. Du coup, je referme le livre en mode, bah, je vais pouvoir dormir. Voilà, donc là, on est au début de la routine. C'est que finalement, il va se passer 2 heures où je suis trop fatigué pour lire. Vraisemblablement trop actif pour que mon cerveau s'éteigne et que j'arrête de penser et que j'arrête de ruminer et que j'arrête de faire des tops de ma journée. Je fais genre le top 5 des trucs que j'ai préféré faire aujourd'hui, le top, enfin je fais que
tu fais ça fais
mentalement, tu les écris pas?
Non, je les écris pas, je fais des listes. Et quand vraiment j'arrive pas à dormir, je suis obligé de décrire les choses. Parce que des fois, je pense à d'autres trucs, je pense à des projets, je pense à des trucs de taf, etc. Et je suis obligé de me reprendre mon téléphone. Que un temps, j'essayais de ne pas amener dans ma mezzanine en me disant je vais être sain maintenant, je vais pas avoir mes appareils électroniques avec moi. Et puis au bout de 3 fois, en avoir marre de descendre ma putain d'échelle pour éteindre mon alarme qui s'était réveillée, enfin qui s'était remise 3 fois. Tu sais, le matin, en gros, je laissais mon téléphone en bas. Et du coup, le truc sonnait et j'étais vraiment en mode. Ah, ça fait longtemps qu'il sonne, il faut vraiment que je me lève. Et je pouvais pas le couper comme tu fais quand tu l'as à côté de toi. Mmh. Vous voyez ? Du coup, c'était très chiant. Donc, du coup, maintenant j'ai craqué, j'ai mon téléphone avec moi en haut, ce qui fait que je rallume TikTok le soir.
Je comprends pas pourquoi tu fais pas arrêter l'alarme le matin et tu restes en bas.
Bah parce que j'ai la flemme de descendre l'échelle. Arrêter l'alarme, c'est déjà la fin du processus. Le processus étant descendre l'échelle. Et bouger du lit déjà de base. Je suis vraiment pas du matin, moi je déteste me lever.
D'accord.
Oui, par contre, ça me force à me lever, c'était l'avantage. Oui. Mais du coup, ça me levait grognon, tu vois, j'étais pas content. Je préfère prendre 5 minutes le matin, au moins le temps d'être en colère, et après ça va. Mais je suis pas du tout matinal pour le coup. Et du coup, ouais, le soir, je scroll facilement, enfin, je rallume régulièrement le portable parce que je suis en mode, bah, je me fais chier, ça fait 1 heure que j'attends le sommeil, il ne vient pas, c'est très pénible. Et du coup, je vais refaire des listes. Ah non, je l'ai déjà faite. Et voilà, on est là-dessus. Bon, je suis ascendant vierge, donc les listes, ça doit être un peu ça.
Tu fais jamais de listes.
Ça ressemble à de l'ébullition mentale, mais je suis pas ta psy. Mais...
oui, bah, il y a un truc de cet ordre-là. Il y a un truc de genre, la journée met du temps à se terminer dans ma tête, et du coup, je suis encore en train de. Enfin, je sais pas comment tu définis l'ébullition mentale. Peut-être que ça serait un truc intéressant à voir, mais.
C'est. C'est plus psychologique que psychiatrique. Je suis pas sûr que c'est une réalité psychiatrique, mais je suis pas psy encore une fois. Et... à vous de checker, mais il me semble que c'est ça ressemble un peu à un trouble de l'attention. C'est en gros ne pas savoir arrêter ses pensées. Après, c'est à un point pathologique en fait. C'est tout le monde peut se dire ah oui, j'ai les pensées qui vont dans tous les sens et tout, bah c'est ok. Mais quand ça devient pathologique, et ben là on peut parler d'ébullition mentale. C'est quand t'as vraiment le cerveau qui saute d'une idée à l'autre en permanence et tout.
Ouais, on n'est pas très loin de ça. Après, c'est par phase. Il y a des phases où ça va mieux. Après, je suis quelqu'un qui vraiment a eu beaucoup de difficultés à s'endormir dans ma vie. Et du coup, ça revient par phase. Je suis plus ou moins insomniaque selon les phases. Après, je ne fais pas des insomnies gravissimes. C'est-à-dire que ça traîne jusqu'à 2-3 heures du matin. Ça me fait chier. Mais ça, c'est les fois où ça va mal. C'est pas des insomnies jusqu'à 6 heures, machin et tout. C'est pas, on n'est pas à ce niveau-là. Ça va. Puis souvent, je me relève et je fais quelque chose. En fait, je finis par craquer et faire bon, c'est bon. Je ne vais pas rester dans mon lit à me faire chier. Ça m'emmerde. Mais du coup, en effet, il y a un peu ce truc-là des pensées que je peine à stopper. Et par contre, il y a aussi un truc qui se passe, c'est que quand je dors avec quelqu'un, souvent, ça me calme un peu parce que ça me force à essayer de faire semblant de dormir jusqu'à ce que je dorme et à me forcer à pas trop me retourner dans tous les sens aussi. En fait, je suis tellement consciente de pouvoir gêner la personne que du coup, je bouge plus. Et je pense que ça me force à me cadrer et peut-être que ça m'aide. Et souvent, je dis à la personne, non, mais je sens, ce soir, je vais faire une insomnie et vraiment 10 minutes après, je dors. Donc bon, comme quoi, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont dans la tête, mais... tout ça pour dire que je n'ai pas encore trouvé une routine du soir, donc c'est un truc à creuser, très clairement. Mais voilà, je pense que c'était une bonne question, et n'hésitez pas à nous répondre du coup sur Insta, à nous dire quelle est votre routine, est-ce que vous êtes team chaos, est-ce que vous êtes team organisé, est-ce que vous êtes entre les deux, ça nous intéresse. Voilà.
Peut-être que tu devrais t'emmailloter comme un bébé, tu sais, pour pas pouvoir bouger et être obligé à...
genre une camisole
ou une couverture lestée, ça marche très bien, et surtout si tu dis que tu dors mieux avec quelqu'un et que ça t'apaise, ça peut aussi aider... Je connais plein de gens que ça a aidé, en fait, les couvertures lestées, qui, du coup, avec le poids, calment l'anxiété. En fait.
Ou un partenaire.
Non, ça, c'est de la codépendance affective. C'est une question, je peux mais d'ailleurs, le sujet du téléphone dans le lit ou à côté du lit ou dans l'autre pièce ou ne serait-ce que dans la même pièce, mais sur le bureau très, très éloigné, c'est hyper intéressant aussi. Mm-hmm. Moi, je sais que j'ai pas mon téléphone près de mon lit, je le pose sur mon bureau et du coup, le matin, quand il sonne, je suis obligé de sortir du lit. Et moi, ça m'aide beaucoup, en fait, parce que ça m'évite de snoozer et de... et de me réveiller quand il faut que je me réveille, en fait. Enfin, je suis vraiment pas team snooze. À chaque fois, je suis intrigué par les gens qui se disent « Ah oui, je me réveille une demi-heure avant l'heure à laquelle je dois vraiment sortir du lit, histoire de pouvoir sortir et tout. » Et je me dis « Waouh, je suis vraiment pas comme ça, c'est ouf et tout. »
Après, je crois qu'il y a aussi... Enfin, en parlant avec des gens autour de moi, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des types différents de réveil et de rapport au sommeil. Et moi, je snooze très peu parce que quand je suis réveillée, tu vois. J'ai un peu ce truc de... Bah, je sais pas, je me lève le matin, j'ouvre les yeux et puis voilà. Et que j'ai dormi 4 heures ou que j'ai dormi 8 heures, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Et en fait, je sais pas, un jour, il m'est arrivé de... pour une raison que je comprends pas, de mal dormir et tout. Et je me suis réveillée le matin et tu sais, j'étais un peu pâteuse. J'avais les yeux collés, j'avais vraiment le sentiment que physiquement, il fallait que je me rendorme et tout. Tout était affreux.
Les réveils d'avion, genre il est 4 heures du matin et ça ne fait pas sens.
Ouais, c'est ça. Ton corps, il comprend pas que c'est le jour alors qu'en fait, t'as dormi une bonne nuit et tout. Et j'en parle avec des potes et mes potes, ils m'ont dit, mais Aïda, moi, tous les jours, c'est comme ça. Et j'étais, mais vous. Il faut aller voir un médecin, c'est pas normal et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon entourage, t'avais vraiment deux teams de personnes et t'as plein de gens qui sont en mode, bah. Moi, tous les jours, le réveil, c'est une souffrance et du coup, je suis un peu physiquement obligée de snoozer, même si je sais que ça ne m'aide pas niveau sommeil et tout, que ce n'est pas productif en termes de sommeil. Quoi. Et moi, je l'ai regardé en mode, mais la vie, ça doit être trop dur quand vraiment le matin, ça fait ça, quand tu n'as pas juste le truc de « j'ouvre les yeux et ça y est, ça commence bah, », ça doit être affreux.
Ouais, moi, je me retrouve avec un cerveau très persuasif le matin en me disant « mais en fait, ça va le faire », parce que du coup, mon cerveau, il est à moitié éveillé, mais il fait quand même des mini-calculs en mode « en vrai ». Hier, tu avais visé large parce que tu savais que tu ferais ça. Et du coup, en vrai, il est 45, mais 55, ça peut encore le faire et tout. Et du coup, je me retrouve à prendre un vélo et ne jamais prendre le métro parce que j'ai pas le temps de prendre le métro.
Mais tu fais quoi pendant les 10 minutes, du coup ?
Bah, je me rendors et je me rendors complètement. Vraiment. Et du coup, bah, après, quand ça ressonne, je suis vraiment en mode, OK, ça fait un tout petit peu moins mal que la précédente. Et du coup, j'y arrive en général. Ouais, ça m'aide un tout petit peu, moi, j'avoue. Mais je sais que c'est pas très bien et que ça répare rien du tout. Mais bah psychologiquement, c'est un peu moins difficile que celle d'avant, je sais pas. Et puis il y a un autre truc qui aide aussi le matin, maintenant, qui est un petit plaisir du matin parce que c'est un déplaisir du soir, c'est que je porte maintenant une gouttière la nuit pour le bruxisme, c'est-à-dire le fait de grincer des dents, parce que je suis en train d'abîmer mes dents comme ça. Et du coup, je dois enlever le truc le matin et du coup, c'est un vrai soulagement parce que c'est très désagréable à porter. Mais juste le soir, par contre, c'est très chiant pour s'endormir. Donc, ça aide pas. Voilà.
Ah, j'avoue.
Donc, team grinçage de dents, voilà, n'hésitez pas.
On est là.
Donc, vraiment très, très stressé. Enfin...
Ah oui, non, bah, je suis un gros stressé de la vie, moi, de toute façon.
Du coup, c'est-à-dire que quand tu es là en train de négocier avec toi-même, j'ai fait ça la veille, du coup, ce matin, je peux dormir 10 minutes de plus ou quoi. C'est-à-dire que tous les matins, ton heure de réveil est différente.
Ouais. Ça dépend de à quel point j'ai beaucoup dormi, peu. Ça dépend de à quelle heure je suis rentré la veille, dans quel état et avec qui.
Bah, je vais sonner comme un, je vais sonner comme un gros psychorigide, mais vraiment, encore une fois, la discipline, c'est ce que tu oublies une fois que tu as été suffisamment discipliné. Et la routine aussi, c'est ce que tu n'as pas l'impression de vivre une routine quand c'est vraiment ta routine. Et ben, moi j'adore la discipline.
Waouh! ce sera le titre. Ok, Michel Foucault.
Mais ce que je voulais dire, c'est que justement. En tout cas, personnellement, et je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça aide aussi, c'est que avoir mon téléphone en dehors de mon lit, ça fait que du coup, j'ai appris que je pouvais pas snoozer. Et du coup, maintenant, c'est même pas une question, en fait. C'est comme ça. Et aussi, même me coucher à 23h, bah, c'est un rituel qui me fait du bien. Et du coup, je me suis discipliné comme ça aussi. Et du coup, en vrai, j'ai un sommeil giga réparateur. Mais après, je dis pas que c'est... il suffit de faire ça et d'acheter un masque en soie et une brume à la lavande et de mettre son réveil en dehors de son lit que vous allez dormir super bien. Non, c'est pas aussi simple que ça. Évidemment, c'est pas une recette magique. Mais ce que je voulais dire, c'est juste, ouais, la force du rituel, et ben, ça aide vraiment le cerveau et le corps à rentrer dans le sommeil plus facilement. Et pas que c'est valable aussi au-delà du sommeil, en fait, pour d'autres choses de la vie quotidienne qu'on n'a pas forcément envie de faire, bah, se discipliner, ça peut aider. Et après, on oublie que c'est une discipline, je pense.
Bah, c'est le truc de la routine, c'est que ça devienne une routine. Mais du coup, au début, ça prend de la discipline, et après, c'est juste une routine, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça le truc, mais juste, il faut s'autodiscipliner de base pour que ça devienne une habitude, quoi.
Et c'est un muscle, hein, la discipline, c'est...
Ouais.
Mon Dieu, mais je sonne vraiment comme à Daron. Mais, mais c'est un muscle, en fait, au départ, c'est vraiment chiant et pénible. T'as pas envie de le faire et tout, machin. Mais au bout de 30 jours, en fait, généralement, il faudrait, soi-disant, 21 jours pour s'habituer à une nouvelle habitude. Je pense que c'est beaucoup plus que ça, en vrai. Ça dépend de l'habitude, mais en vrai, ça aide vraiment, quoi. Enfin, si vraiment tu disciplines pendant une demi-heure... Enfin, pas toi, personnellement, Mathis, ou les autres, LM Crado, c'est pas une injonction. C'est une invitation à essayer la discipline, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Et tout le monde n'est pas du matin, hein. C'est pas un life goal. On est en train de glamouriser les morning routines et les night routines aujourd'hui, maintenant, ça vraiment, ça se déplace. C'est pour être le plus performant possible et tout.
Oui, c'est ça.
C'est hyper productiviste et capitaliste comme manière de penser, mais en vrai, faites ce que vous voulez. Hein. Si vous aimez avoir un sommeil chaotique, enfin bon, je doute que les gens aiment ça, mais Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est ok de pas être ok, et de pas réussir à dormir et d'avoir un mauvais sommeil ou quoi. C'est, enfin, ça peut nuire à votre santé, mais c'est pas votre faute. Enfin, vous culpabilisez pas davantage. C'est le meilleur moyen de dormir encore plus mal, quoi.
Ouais, et puis on minimise aussi avec notamment la question des routines et tout, qui sont des éléments importants de la vie individuelle, mais c'est aussi, enfin, c'est important de pas minimiser les autres facteurs qui font que en fait, bah, l'anxiété existe, que des fois on n'arrive pas à dormir, qu'il y a des choses qui sont difficiles à gérer. Bah, en fait, quand on subit des pressions au travail, qu'on a des soucis de, j'en sais rien, d'environnement, de famille, de proches de manière générale, certes, la discipline, ça peut aider, mais ça ne répare pas non plus des situations problématiques, donc vous ne faites pas non plus du mal. Si...
Ouais, enfin, c'est clair.
En tout cas, n'oubliez pas d'interroger les événements, enfin, les choses, les facteurs extérieurs à vous qui peuvent causer aussi des soucis à ce niveau-là. En tout cas, moi, c'est ce que je fais souvent, parce que j'adore dire que ce n'est pas ma faute et que... et que c'est les autres le problème. Et c'est très souvent le cas. J'ai vérifié toute ma vie.
C'est une transition parfaite pour parler des autres et du coup parler des autres qui nous parlent, c'est-à-dire des commentaires. C'était très alambiqué. Est-ce que vous avez des commentaires, puisque ça fait 14 ans qu'on n'a pas tourné un LMK ? En vrai, petit contexte, du coup, je vous parlais au début des épisodes qui sont sortis il y a longtemps, etc. Ça veut dire que nous, on n'a pas tourné de LMK du coup depuis plus d'un mois, un mois et 15 jours, du coup, à peu près. Donc ça fait un petit moment finalement qu'on ne s'est pas retrouvé autour d'une table dans cette salle qui chauffe déjà beaucoup trop. voilà, est-ce que vous avez des commentaires ? Qui est prêt à commencer ? Anthony, t'es prête à un truc ?
Oui, je ne sais pas pourquoi mon téléphone n'arrive pas à afficher correctement la photo, mais j'avais des commentaires trop mignons d'une personne en fait, qui était partie en vacances récemment en Grèce. Et sans lui demander rien, après le compte utilisateur est introuvable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que la personne a désactivé Instagram entre-temps. Mais c'était une personne d'origine grecque qui vit en France, qui parle français. Et en fait, elle m'a dit « Ah, t'es en Grèce, il me semble que t'es végétarien, voici des adresses trop stylées de restaurants en Grèce. »
Ah, c'est trop chou. Genre,
adore.
C'est adorable.
Elle m'a dit « Ouais, et ça ici et ça, là-bas, leur spécialité, c'est ça. » Et tout. J'étais « Mais mon Dieu, mais trop mimes, en fait. » En plus, j'y connaissais à rien du tout, donc j'étais trop content d'avoir cette personne qui me faisait des recommandations. C'était vraiment adorable, mais hélas, cette personne, j'ai plus son handle, son hat. Donc voilà, désolé, si tu te reconnais, big up. Je me suis régalé grâce à toi, en grande partie. Voilà, et l'autre personne, vraiment, mon téléphone bug. Genre, comment on...
Mais c'est pas
audio description, Anthony est en train de taper sur son téléphone comme une vieille personne avec son index en disant pourquoi ça marche pas.
Il me dit batterie 10.
Oui, alors il faut savoir que j'ai 20 ans réellement, mais en fait dans mon corps et ma tête j'ai 90 ans, du coup je ne sais pas utiliser la technologie. Et donc souvent dans l'open space je crie hey, la Gen Z, comment on fait TikTok? Voilà,
c'est vrai.
Donc je m'égare, j'ai un autre commentaire d'une personne qui s'appelle at Alexis Did It Again, qui me racontait être parti en vacances en Estonie et qui me disait ah, tu vas trop t'amuser à Athènes, voilà ce que je te recommande aussi. Donc c'était trop sympa.
Tout le monde te recommande des trucs, c'est génial.
Ouais, grave. Et donc c'était assez drôle. Et j'avais une autre personne qui m'a envoyé une super adresse de salon de thé dans le Grand Est, mais en fait elle m'a fait un vocal, du coup je ne peux pas l'écouter pendant l'enregistrement, donc voilà, ça vous apprendra à faire des vocaux. Non, mais je reviendrai avec le nom et l'adresse quand j'aurai l'écouté et pu préparer l'émission, parce que là ça a été un peu au pied levé. Mais c'est un salon de thé trop bien, avec des madeleines assorties à des thés. Il y a des accords mai et thé, ou madeleine et thé. À Strasbourg, voilà, je ne sais plus le nom, mais c'est de la part d'une certaine Marion. Et je crois que, de mémoire, c'est son cousin qui a le salon de thé. Et je crois qu'il y a un jeu de mots avec Proust, mais je ne sais plus. Il y a sûrement 90 000 salons de thé qui ont un jeu de mots avec Proust en nom. Donc voilà, je vous retrouverai l'info et je le dirai dans le prochain épisode où je serai. Merci Marion. Je me moque tout ça avec les vocaux, mais en vrai, merci quand même pour ton commentaire, c'est adorable. Je créditerai l'adresse comme il se doit la prochaine fois.
Trop bien. Après, on pourra la mettre dans les notes du podcast, en vrai, l'adresse.
Ah oui, ah oui.
Et oui,
voilà.
J'existe. Ida, est-ce que tu as un commentaire ?
Moi, j'ai pas de commentaire parce que ça fait longtemps que je suis pas venue dans LMK.
C'est
en vrai, même avant la pause, je crois que j'avais raté quelques enregistrements pour des raisons de vacances et de trucs. Mais j'ai reçu énormément de DM au moment où il y a eu cette espèce d'algorithme là sur Twitter qui disait ça c'est de gauche, ça c'est de droite. Mes messages ont été envahis de personnes qui me disaient oh mon dieu Aïda, est-ce toi? Ce n'est pas moi, car j'ai fait plusieurs tests avec cet algorithme et il dit que laisse-moi kiffer, c'est de droite. Donc non, j'ai pas fait ça, fake news. Il dit que les pigeons c'est de droite, ça aurait pu être moi, Mais j'ai aussi essayé avec Alix Martineau et il disait qu'Alix Martineau, c'était de droite.
C'est vrai.
je ne recommande pas cet algorithme qui dit des trucs faux et malheureusement, je ne l'ai pas inventé. Mais vraiment, vu à quel point tout le monde se met à faire des trucs, ça c'est de gauche, ça c'est de droite et à gagner de l'argent avec ça, je me dis que soit j'ai raté le coche, soit tous les LM crado capitalisent sur mes super blagues d'il y a 10 ans. Je sais pas, faut que je réfléchisse à comment capitaliser sur ce qui est de gauche et de droite.
Il y a une petite recommandation culturelle. Il y a Blast, le média indépendant, qui a sorti une vidéo YouTube où ils interviewent un cardiologue de mémoire qui a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi fumer, c'est de droite ?» vraiment, je recommande à tous les fumeurs et non-fumeurs et toutes les fumeuses et non-fumeuses de regarder cette vidéo parce que c'est hyper intéressant.
Oui.
Et vraiment, mais j'étais estomaqué, quoi. Époustouflé sans mauvais jeu de mots avec la cigarette. Donc voilà, allez voir cette vidéo, c'est trop intéressant. Voir, lisez le livre, si vous pouvez.
Oui.
Bah oui, pourquoi pas. Moi, côté commentaire, je voulais revenir sur un commentaire qu'on m'a fait en vrai hier. Du coup, donc hier, petit contexte, j'étais au concert de Lil Nas X. Le show était bien, Lil Nas un peu moins.
Arrête, j'adore, c'est mon fils.
Ah mais je l'aime beaucoup, juste il a vraiment fait le minimum. Il avait le PBO à fond derrière, enfin c'est-à-dire les backtracks, vous voyez. Et il y avait beaucoup de parties qui étaient chorégraphiées. Le problème d'être avec des danseurs professionnels, c'est que t'as toujours l'air un peu d'un gland quand t'as été formé en quelques mois par rapport à des gens qui sont formés à l'âge de genre 5 ans. Du coup, forcément, il y avait plein de trucs qui étaient un peu à côté et je trouvais que vraiment il en faisait le minimum. Et que, enfin, après, c'est des shows américains, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes américains. Je trouve que c'est vraiment sans âme, toutes les interactions font répéter. Mais par ailleurs, du coup, c'était un concert genre où moi c'était un peu le chaos. Genre, moi j'avais ma doc qui avait cédé en fait et c'était ouverte au niveau du comment expliquer ça ?
Talon.
Ouais, en fait, sous la semelle s'est fendue en deux, ce qui fait que l'arrière de la semelle a commencé à tomber. J'ai dû défaire les lacets d'une première doc pour. Que faire tenir la semelle quand je marchais avec mon pied. Enfin, c'était chaotique, globalement. Donc, je suis arrivé comme ça, je marchais comme Maugrey Folloy, c'était un enfer. Et du coup, j'ai un LM Crado qui m'a reconnu et qui est venu me voir. Et c'est Paco, simplement Paco, qui nous écrit souvent.
Bisous, Paco.
Et qui nous a fait des bisous, qui nous a parlé un petit peu. Pourquoi je dis nous ? J'étais tout seulement. qui m'a parlé et c'était très chouette. Et sinon, j'avais un autre commentaire pour parler vite fait dramatiste, parce que si je fais pas d'autopromo, c'est pas drôle. De ma mère qui m'a dit quand c'est sorti et que j'ai fait des en disant c'est en ligne, il m'a dit quelle heure et je lui ai dit c'est déjà en ligne, il a dit merde je n'arrive pas à trouver, emoji terrifié, après elle a mis c'est génial, pouce, bravo et j'aime ton travail et ton humour, emoji cœur, voilà. Et je trouvais ça génial de citer Lolo dans ce podcast qui fait des commentaires mimi.
C'est trop sympa qu'elle t'ait répondu ça.
En vrai, elle a fait l'agence de com gratos, genre en fait on s'est vu ce week-end avec mes parents et du coup elle m'a dit j'ai dit à Dominique que c'était vachement bien et puis son fils il fait du théâtre donc je vais lui dire d'écouter le podcast et puis à la boulangerie aussi j'ai croisé machin et mais maman je te paye pas pour tout ça, arrête. Donc voilà, les meilleurs attachés de presse c'est parfois les gens qu'on aime. Ce qui est une transition finalement fumeuse vers une anecdote bof, et je me demande si on l'a pas déjà faite, du coup coupez-moi si on l'a faite, je suis pas sûr. C'est une anecdote de Lou Boulanger qui nous dit « Salut l'équipe, j'ai une anecdote bof de star très bof pour vous ce soir. J'ai Olivier Bas, ancien jury de La Nouvelle Star dans mes amis Facebook. » Je sais pas à qui ça parle. Son deuxième compte, attention. Oui, c'est le vrai, le mec a genre 5 comptes il me semble. Je ne l'ai en fait jamais personnellement rencontré, mais il connaît. C'est ma cousine. Et après que j'ai passé un séjour chez elle à Paris et qu'elle postait des photos sur Facebook, remember quand les jeunes postaient des trucs sur Facebook, il m'a ajouté en ami et j'ai accepté. J'ai complètement oublié son existence, mais comme aujourd'hui c'est son anniversaire, Facebook me l'a rappelé. Voilà. Donc c'était l'anniversaire d'Olivier Bas il y a longtemps, parce que c'était une anecdote qui date également.
Mais qui est Olivier Bas ? Pourquoi est-ce qu'il ajoute les cousines de ses potes sur Facebook ? J'ai pas envie.
Je pense que la question elle est vite répondue.
C'est vraiment
surtout s'il a plusieurs comptes.
C'est une anecdote bof à tous les niveaux.
Je sais pas qui c'est, mais.
À tous les niveaux, c'est gênant.
Mais surtout, il n'y a aucun jugement dans ma question. Mais pourquoi vous acceptez des gens que vous ne connaissez pas sur Facebook ?
Ben, je sais pas. Je sais que pas mal de gens que je connaissais ont fait ça un temps. Je crois qu'il y avait un temps où tu étais content d'avoir vraiment beaucoup d'amis en termes de nombre. Genre, moi, je me souviens qu'au collège et au lycée, ça comptait pas mal. Et puis après, j'étais vraiment en mode on va enlever les gens au fur et à mesure de la vie. Et du coup, je faisais des gros tris par séquence. Mais je sais qu'un temps, ouais, j'ajoutais un peu n'importe qui.
Et si la personne elle est genre un peu connue ?
Ouais, c'est ça.
Il y a moyen que ce soit un peu stylé, tu vois.
Mais t'as une page dans ces cas-là ? Non ? Enfin, je sais pas. Faut demander à Olivier Bas.
Les gens un peu connus, t'ajoutent. Enfin, je sais pas, après, là, ça a dû arriver en 2004, mais. Les gens un peu connus, j'imagine que s'ils t'ajoutent avec leur compte privé, c'est pour. te tchatcher, quoi.
Ouais.
Ouais, je pense aussi.
Oui, oui, on est là-dessus, on est sur du POC.
Ah, le POC.
Attendez,
ça c'était super.
J'ai oublié ce que c'était. C'est sur Facebook, genre tu poques les gens
ouais,
sans les écouter en ami, c'est ça?
Ça servait pas à grand chose. Et en gros, les gens ils te poquent back, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire.
En gros, c'est un.
Moi je faisais des batailles de POC avec des gens et on était genre à des records de 564 POC.
Mais non, mais les POC c'était que pour chiner les gens.
Bah oui, mais pense, nous on utilisait vraiment juste ça en mode ah ah, je t'ai fait ça et du coup maintenant c'est à ton tour. Enfin, c'était
mais comment
vraiment
tu
juste
le nombre de POC que t'as fait? Ah, tu l'as recensé à côté genre?
Non, c'est non,
un POC Excel.
Non, c'était recensé par l'appli. Je sais que j'étais malheureux, mais quand même, il y a des limites à la connerie. Non, non. Et c'est le moment idéal pour enchaîner sur un jingle qui n'est pas un jingle de Marine Normand, car vous nous haïssez avec ce jingle. Peut-être que ça peut être parce que Aïda, elle est un peu triste, donc pour Aïda,
non,
ce sera
non,
un jingle
mais
de Marine Normand.
Ça peut ne pas l'être, parce que la vérité, c'est que moi, je les écoute pas, les jingles, quand on enregistre. Je les écoute que quand j'ai envie d'entendre la voix de Marine.
C'est vrai.
Du coup, je ne les subis pas dans mes écouteurs comme vous.
Bah, on verra ce qui m'inspire au montage. Voilà, on verra. Le Matisse du futur choisi.
Je me présente, je m'appelle Jean-Ki. Ouais.
Waouh, merci, merci Valentin.
Une coordination presque parfaite. Anthony, c'est quoi ton kiff?
Mon kiff, c'est mes vacances en Grèce, justement. Enfin, je dis en Grèce, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt mes vacances à Athènes. C'était hyper sympa parce que, en fait, il faut sachez que, comme dirait Amélie, dans Secret Story, c'est ça?
Je sais pas, pour moi, c'est toi et Inès de la vidéo qui dit ça tout
moi,
le temps.
Moi, j'ai 14 ans.
Je sais que c'est un mème, mais je
ouais,
le
c'est Amélie, une ancienne candidate de télé-réalité de Secret Story, qui sortait avec un mec qui s'appelait Senna dans l'émission. Elle arrêtait pas de crier « Senna, Senna, tu sais m'attraper la porte ?» Enfin bref, qu'importe. Elle était belge.
Ah, c'est pour ça.
Ah.
Et donc, elle disait « Il faut sachez que... » Enfin bref, c'est archi drôle. Anyway, checkez sur Google, demandez à vos amis. Ça aussi, c'est un autre mime. C'est pas moi qui suis pédant. Ouais, en fait, je pense que je passe pour arrogant parce que je fais des refs à des trucs de Twitter, en fait. Et les gens, ils comprennent pas, ils croient juste que je suis odieux, alors qu'en fait, c'est juste que je cite quelqu'un d'autre.
Genre quoi? Quand tu dis « il faut sachez que », t'as pas l'air arrogant, ça va?
Ouais, là, j'ai l'air débile. Tu vois, j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit « Anthony, vraiment...
» On dit pas ça, on dit « sachoir ».
Mais il faut sachez que, ouais, j'ai un peu du mal à prendre des vacances, en général. Et du coup, j'avoue, ça craint, c'est pas du tout... féministe ou allié féministe de ma part, mais c'est un peu ma meilleure pote qui est médecin qui me dit « Anthony, ça fait trop longtemps que t'as pas pris de vacances, ou prends tes vacances maintenant. » Et du coup, genre, une fois par an...
Je fronce les sourcils.
Une fois par an, elle m'impose des vacances. Et là, c'est tombé en Grèce au mois d'octobre. Et c'était hyper cool parce qu'en fait, on hésitait entre deux destinations et il y a le Covid qui court toujours, donc c'est important de choisir... en connaissance de cause, des infrastructures, de comment est l'épidémie là-bas et comment nous-mêmes on est, faire un test avant, même si le pays ne l'exige pas forcément. Et si vous pouvez faire votre appel de vaccin avant de partir, c'est encore mieux. Voilà, j'avoue, moi j'avais dégainé mon pass vaccinal à l'aéroport et personne ne me l'a demandé. J'étais non, mais moi je suis à jour et tout, attendez, mettez votre masque, même si ce n'est pas obligatoire.
Le
c'est
bon
hyper
élève.
Important. Ouais, très bon élève sur cette question-là. C'est important pour
c'est important
soi et pour
ouf.
Les autres. Ouais. Voilà, parce que. Genre, les hôpitaux en Grèce, c'est un peu saturé encore. Anyway, et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'était hyper sympa, on connaissait pas du tout Athènes. Ma meilleure pote, elle est très très fan de mythologie, du coup, elle était trop contente, elle avait révisé ses mythes avant de partir et
ah,
tout.
Ah, c'est trop bien.
Et elle lit beaucoup, et donc, dans l'avion, elle a fini son bouquin au bout d'une demi-heure, puis elle a lu le mien en une heure, puis elle m'a refait tout le résumé du livre avant même que je le lise.
Putain, moi, j'ai regardé Mission Cléopâtre, je suis vraiment un déchet. Vraiment.
Non, moi, ouais, c'était. En fait, elle était en train de lire mon bouquin, c'était About Love de Bell Hooks. Attends, je vais prendre tout. Non, c'est Bell Hooks. Ouais, c'est Bell Hooks.
Oui, c'est Bell Hooks.
Et du coup, elle m'a fait le résumé juste après l'avoir lu et tout. J'étais waouh, trop intéressant, j'ai trop hâte de le lire et tout. Enfin, bref. Elle me l'a teasé et je l'ai vu dans l'avion retour. Et ce que je voulais dire, c'est que on est parti du coup 7 jours, dont 6 nuits sur place, dans un appartement hôtel. Qui est un peu en banlieue de Athènes. C'était hyper bien. On dormait dans le même lit, évidemment. Et parce qu'on se douche tous les soirs ensemble. Je veux dire,
quoi?
On se douche
quoi?
Le soir. Pardon, c'est trop bizarre. Elle est comme moi, on se douche le soir. Du coup, on est trop contents de dormir dans le même lit parce qu'on est tous les deux propres. Voilà. Après, je vous juge pas, mais bon. Non, mais et du coup, en fait, c'était trop bien parce qu'en fait, on marchait toute la journée. En fait. Athènes, les transports en commun, de ce que j'ai compris, parce que je parle pas grec, c'est assez cher, le métro. Genre, elle, comme moi, ça faisait 9 euros chacun, alors que le taxi, ça coûtait rien du tout. Du coup, au lieu de payer 18 euros au total, on préférait prendre un taxi qui coûtait 5-10 balles les fois où on avait la flemme de marcher 15 km. Mais sinon, toute la sainte journée, on marchait genre 15 km par jour à travers Athènes. Et c'était vraiment trop cool. Mais c'est vraiment une ville hostile aux piétons, quoi. J'étais halluciné. No offense, les Athéniens et les Athéniennes. Mais vraiment, vous connaissez les trottoirs et les pistes cyclables, je sais pas. Enfin, vraiment, j'étais choqué. Et en fait, nous, on parle super vite, mais pas très fort. Et en fait, on s'entendait jamais parler parce qu'il y a trop de trafic, c'est hyper intense. Ils klaxonnent dans tous les sens, ils roulent sur les trottoirs. Ils roulent aussi sur les voies piétonnes, soi-disant.
Ça fait un peu penser à Naples, en vrai, dans l'idée. Genre...
C'est un peu les villes du sud de l'Europe, quoi. Ouais.
Ouais.
Mais sinon, les gens sont hyper sympas. Les gens qu'on a rencontrés étaient vraiment cool. Ça fait un moment, on a croisé une manif. Et vraiment, moi, je suis débile, je comprenais pas l'accent anglais de tous les Grecs. Et à un moment, il y avait une manif, et je sais plus ce qui se passe, mais en gros, il y a un manifestant qui commence à gueuler un truc à mon égard. Et moi, je comprends pas, et du coup, je dis, what? Ah, et je demande de répéter, et tout me dit, welcome to fucking Greece, fucking tourists. Et moi, je dis, what? Et puis, il répète le truc. Et j'ai fini par comprendre au bout de la troisième fois, je dis, oh, thank you, have a nice day. Et je suis parti parce que j'avais peur qu'il me tabasse. Parce qu'il a dû croire que je me foutais de sa gueule alors que pas du tout, vraiment j'avais pas compris ce qu'il disait quoi.
On avait pas l'air sur une manif bonne vibes.
Non, c'était pas une manif bonne vibes du tout. Et en vrai, c'était aussi intéressant de se rendre compte en fait la Grèce, on en parle beaucoup moins comme étant en grosse dette par rapport au reste de l'Europe et tout machin, mais c'est beaucoup plus complexe que ça et c'était intéressant aussi de se rendre compte que ça reste avec beaucoup de disparités économiques, enfin ça reste très compliqué. Et
pardon, je voulais juste rebondir aussi sur le fait que... Enfin, c'est toujours un peu affreux d'avoir quelqu'un qui est agressif à son égard. Et là, t'étais juste en train de marcher dans la rue et c'est absurde que le mec t'ait dit ça. Et en même temps, je crois que, économiquement et individuellement, les Grecs, ils souffrent vachement du tourisme, en fait. Et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées en Europe, notamment, mais pas que, parce que la Grèce, c'est un pays qui est magnifique et... Et du coup, ça attire le tourisme, et notamment le tourisme de masse. Et en fait, on parle peu, notamment en France, parce que, par exemple, tout le monde adore aller en Grèce, tu vois, du fait que les Grecs eux-mêmes n'ont pas accès à toutes les choses dont les touristes profitent. Et où je crois qu'il y a pas mal de choses qui commencent à sortir en ce moment sur à quel point ça crée de la souffrance économique et morale en Grèce, le tourisme de masse.
Tu penses à des choses comme Airbnb ou pas nécessairement?
Entre autres, mais après, tu as aussi. Alors, je ne saurais pas être précise sur le sujet parce que c'est des lectures qui remontent un peu, mais il me semble qu'il y a aussi un truc de. L'État aide les Grecs à partir en vacances, notamment parce qu'en fait, les lieux de villégiature en Grèce sont pris d'assaut par les touristes et du coup sont très chers. Donc, les Grecs eux-mêmes ne peuvent pas, en fait, partir en vacances dans leur pays, ce qui est en général l'option la plus coûteuse et. La moins coûteuse, je veux dire, et la plus pratique, éco-responsable, si c'est ça qu'on a envie de placer en priorité aussi. Et en fait, les Grecs, du coup, se retrouvent à être obligés de tous partir en vacances à certains endroits où, déjà, c'est pas les endroits les plus beaux de leur pays. Et puis, du coup, tous les autres sont trop chers et pris d'assaut par plein de gens. Je pense à certaines îles, notamment, où... j'ai pas de chiffres exacts là-dessus. Encore une fois, je suis sûre de l'apeuprisme, mais il me semble que, il y a un peu de colère, mais c'est le cas à plein d'endroits du monde en ce moment. En vrai, le tourisme de masse, de manière générale, fait un peu des ravages économiques. Et nous, on peut pas y faire grand-chose à l'échelle individuelle non plus, et on peut pas non plus empêcher ce genre de truc. Mais j'imagine que c'est ça qui a déclenché cette espèce d'hostilité.
Oui, bien sûr.
Peut-être que la manif était à propos de ça. Enfin, j'en sais rien.
En tout cas, je pense que son grief était légitime. Hein. J'ai pas du tout contesté ce truc. Je me suis juste éloigné. J'ai essayé de comprendre de quoi il en ressortissait par rapport à la manif, mais j'ai pas tout compris parce qu'il manifestait pas en anglais.
Tu veux savoir, c'est en grec.
Mais je savais pas lire le grec non plus, mais effectivement, c'était assez flagrant ce que tu décris là, Aïda, c'est que le niveau de vie des locaux était bien en deçà de ce que nous, on pouvait se permettre, ma copine et moi qui vivons à Paris et qui évoluons dans des métiers un peu CSP+. Clairement, en fait, nous, ça nous coûtait rien de payer des repas 10 balles. Nous, ça ne semblait rien du tout. Et en fait, quand on regardait autour de nous, il y avait que des touristes, tu vois. Et... que ce soit les rooftops qu'on fréquentait ou les soirées en boîte ou les bars et tout, clairement, il n'y avait que des touristes parce que ça coûtait peut-être plus cher que leur niveau de vie moyen. Et pourtant, on est parti hors saison. Et donc, ça dit bien que ouais, il n'y a pas tant de locaux que ça qui peuvent se permettre le train de vie qu'on a pu se permettre nous en tant que touristes avec notre pouvoir d'achat de Français qui partons dans un pays où le pouvoir d'achat est plus faible et le salaire moyen... plus faible aussi. Et donc oui, ça nous a un peu saute au visage, effectivement, cet écart social, cette violence sociale aussi. Et on n'était pas fiers de ça non plus, évidemment. Mais oui, du coup, ça perd un peu difficile de rebondir après ça.
Je suis désolée. En plus, je disais pas du tout ça dans un truc culpabilisateur et tout. Franchement, on fait tout ce qu'on peut, que ce soit nous autour de la table ou pour les auditeurs, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, on oublie parce que aussi l'information arrive peu jusqu'à nous. Parce que...
Ah, mais je pense que tu as raison de le souligner. Hein. Et justement, nous, ça nous a marqué aussi. On se déplaçait uniquement à pied, sauf les rares fois, effectivement, où on avait marché 15 km. Et le soir, on était vraiment trop fatigués pour rentrer à pied. Et ben, parfois, on allait dans des vestiges archéologiques, des choses comme ça. Et il y avait des quarts et des quarts et des quarts de touristes qui descendaient. Et c'était impressionnant parce que c'était hors saison. Il y avait quand même plusieurs quarts d'affilée qui sortaient, quoi. Donc, on se disait, mais c'est fou. C'est vraiment, oui, du tourisme de masse, à proprement parler. Et je n'ose même pas imaginer pour les petites îles de Grèce, par exemple, où les écosystèmes sont plus fragiles. Donc, ça doit être beaucoup plus dur que relativement dans les terres comme à Athènes, quoi. Donc... c'était assez impressionnant de se rendre compte de ça. Et c'est aussi dingue l'image qu'on peut se faire de Athènes. Je vais juste parler d'Athènes parce que c'est vraiment ce que j'ai visité. En fait, c'est une ville qui, dans son tourisme et dans l'image qu'elle donne d'elle-même aux étrangers, est vachement bloquée dans le passé, l'Antiquité, quoi. Et du coup, c'est assez peu valorisé l'Athènes contemporaine, en fait. Et donc, c'est vraiment dommage. Enfin, nous, c'est ce qu'on essayait de découvrir et en parlant avec des locaux. Dans des bars, des restaurants, et même dans la rue parfois, parce qu'en fait, vraiment, les gens étaient adorables avec nous. Les 9/10 des gens, ils nous parlaient hyper facilement et tout. Ils se souvenaient grave de nous aussi.
Enfin, ouais, c'était
improbable. Après, je suis noir et ma meilleure pote, elle est asiatique. Et du coup, genre vraiment, à chaque fois, ça les marquait, ils se rappelaient de nous et tout. Enfin bref, et ils nous parlaient tout le temps de ça. Enfin, c'était un peu gênant aussi. mais ils étaient très attachés à se dire « Ah oui, vous êtes en couple, c'est hyper original et tout. » Ah, non, on n'est pas en couple, mais on va pas vous raconter notre life en fait. Ouais, genre, laissez-nous tranquille. Mais tout le monde n'était pas insistant là-dessus. Hein. Vraiment, ça a été relevé 3-4 fois. C'est juste qu'on était surpris quand les gens se souvenaient de nous. Anyway, ce que je voulais dire, c'est juste genre, c'est cool aussi de voyager pour découvrir un autre pays, évidemment, une autre ville, une autre culture. Et ça nous a aussi permis de voyager en nous-mêmes, en fait. Je crois qu'on n'a jamais parlé aussi profondément, ma meilleure amie et moi, de ce qu'on pouvait vivre. Et en fait, là-bas, comme on était parfois renvoyés à notre race sociale respective et racisés, du coup, par le monde extérieur, ça nous a aussi permis d'aborder cette question-là qu'on n'avait jamais abordée de manière explicite aussi longuement que tous les deux. Parce que on a grandi dans une ville, une banlieue verte, comme on dit chez les gens qui savent. Je rigole, là c'est une référence, encore une fois, pardon, je vais encore passer pour un gros pédant. mais du coup, ma meilleure pote et moi, on vient de banlieue sud, très très verte, avec beaucoup de parcs, et c'est un peu bourgeois. Et du coup, on a été scolarisés dans des lieux très très blancs aussi. Et du coup, on n'était pas toujours majoritaire en termes de personnes racisées. Bref, on était assez minorisés, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que, du coup, c'est des questions qu'on n'a pas tellement abordées parce qu'on était très, très minoritaires et donc c'était pas un sujet de discussion courante, ni même important ou quelque chose qu'on avait besoin de relever. Et c'est vraiment très tardivement qu'on a commencé à en parler explicitement. Et là, la première fois qu'on en a parlé longuement parce qu'on était que tous les deux et pas avec nos autres meilleurs amis qui sont blancs, la majorité d'entre eux. Et du coup, c'était hyper approfondi et intéressant et trop agréable comme séjour aussi par rapport à ça. Parce qu'on a mis grave de choses à plat et on a parlé d'expériences glorieuses et moins glorieuses. C'était trop cool, quoi. Donc, c'était un voyage intérieur aussi, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et j'ai adoré ce voyage avec ma meilleure pote à Athènes. Et sinon, petite remarque pratico-pratique. Si vous partez à Athènes, une semaine, c'est un peu trop. Genre, partez 4 jours, ça suffit. Mais, ou alors, si vous avez une semaine entière, profitez-en pour aller voir le Péloponnèse ou d'autres choses encore, quoi. Mais voilà.
Trop bien.
Ça a l'air trop bien.
Ouais, ça a l'air trop chouette.
C'était un peu confus comme kiff, je suis désolé.
Non, mais je crois que j'ai un peu cassé l'ambiance.
Non, pas du tout, pas du tout.
Mais en vrai, c'est toujours hyper complexe parce qu'à la fois, t'as pas envie de te cantonner à voyager dans des pays hyper gentrifiés ou hyper riches. Et en même temps, moi, j'ai ressenti ça aussi à Naples, pas mal, qui est une ville qui, pareil, est à la fois magnifique et en même temps très précaire, surtout du coup, là où on logeait, c'est-à-dire les quartiers historiques qui, bizarrement, sont les quartiers les plus précaires. Parce qu'en fait, Naples, c'est une espèce de cuvette et en bas, vous avez tous les vieux quartiers. Mais c'est aussi des petites rues qui sont très étroites, etc. Certains endroits qui sont un peu insalubres. Les gens sont plutôt sympas. On n'a pas l'impression que ça craint particulièrement ou quoi, si vous voulez. C'est juste que genre, c'est en effet très populaire. Donc sur les guides touristiques, il y a des trucs en mode attention à tel quartier qui craint. Et en fait, non, c'est juste tel quartier est surpeuplé avec clairement des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui roulent à scooter très très près de vous. Ça, c'est vrai que niveau insécurité, c'est peut-être se faire buter par des gens qui sont à trois dans un scooter, enfin sur un scooter sans casque. Ça, oui. Mais du coup, tu vas dans les quartiers riches en hauteur et du coup, t'as un espèce de truc de genre, c'est beaucoup plus proche de ce que tu connais comme expérience. Et enfin, je sais pas, tu t'en veux des fois d'avoir des espèces de trucs de. Espèce d'exotisme mal placé juste parce que c'est très différent, mais en même temps, c'est parce que c'est juste beaucoup plus précaire et que du coup, ça fonctionne avec presque des bouts de ficelle en fait par endroit, tu vois. Et enfin, comment dire. Il y a presque des endroits où je pense que ça a vraiment été glamourisé comme image de la ville, mais c'est parce que c'est de la précarité. Enfin, ah, regardez ces petites maisons où c'est un peu accidenté, machin et tout. Et t'es en mode, oui, mais enfin, c'est. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est toujours une position qui est compliquée parce que, à la fois, je trouve que c'est intéressant et important de voir. Et puis en fait, tu peux ne pas te comporter comme une merde et par ailleurs favoriser des grosses franchises qui jardent des gens sur place. Et là, on a favorisé les locaux au maximum et tout. Et les gens sont adorables, pareil et tout. Ils sont, enfin voilà. Mais c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un vrai questionnement dans les voyages et qui est compliqué. Et encore plus quand il y a un décalage culturel beaucoup plus fort. Parce que là, je parle de Naples, mais j'imagine que des gens qui vont voyager. Au fin fond du monde, voilà, y a des pays où vraiment c'est très flagrant, surtout moi typiquement en tant que blanc vraiment privilégié, c'est une question qui vraiment m'anime et m'empêche de voyager à plein d'endroits, par peur de vraiment être un couillon en fait, tout simplement.
Ouais, je suis assez d'accord, je pense que c'est des questions qui sont hyper vastes et sur lesquelles on est encore un peu toutes et tous en train de tâtonner à chercher des réponses, que ce soit en termes d'éthique individuelle, mais même d'éthique un peu plus globale. Enfin, la question climatique, elle est aussi hyper présente en ce moment sur ces questions-là. Et en fait, il y a beaucoup. Enfin, parler d'arrêter de prendre l'avion, par exemple, c'est quelque chose qui donne des réactions qui sont souvent hyper, hyper à fleur de peau parce qu'en fait, ça touche à. Enfin, le voyage. Je connais peu de gens qui sont en mode moi, je m'en fous de voyager, ça m'intéresse pas. Ou tout le monde a envie d'aller voir ailleurs. Et aujourd'hui, se dire bon, bah voilà, en tant que Français occidentaux relativement privilégiés. Il y a des choses auxquelles on participe malgré nous en voulant aller voir des trucs, c'est chiant. Et en même temps, bah, se dire non, mais ça, je vais arrêter totalement, c'est pas toujours une option et c'est peut-être un peu. C'est peut-être un peu fourvoyé que se dire la seule solution, c'est d'arrêter ça complètement parce que je sais pas si c'est ce à quoi la majorité souscrira, mais en fait, ça, c'est pareil pour l'instant. Non, c'est rien. En tout cas, moi, j'ai pas de réponse à ça non plus puisque mon kiff, c'est un voyage. Donc...
Bah, c'est l'occasion d'enchaîner sur ton kiff justement parce que l'heure tourne.
Ouais, grave, on va éviter.
De toute façon, c'est un épisode spécial voyage. Hein. Je spoil mon propre kiff, mais vous le saurez, c'est un épisode à thème. Voilà.
L'épisode avec l'empreinte carbone la plus chargée de l'histoire de Laisse-moi kiffer. Et ce sera en partie ma faute car mon kiff, c'est un voyage en Thaïlande.
Et boum! T'as pas pris le train?
J'ai pris le train dans la Thaïlande. J'ai pas pris le train pour y aller. Ouais, j'ai pris des vacances ce mois-ci, enfin, entre des vacances à la Toussaint globalement. C'était mes premières vraies grosses vacances, grosses coupures de l'année. C'était trop bien, j'en avais vraiment très très besoin. Et il s'avère que pour mes 30 ans, mes copains et voilà, et ma famille et les gens qui m'aiment et que j'aime aussi très fort, m'ont fait une grosse cagnotte pour que je puisse partir en voyage. Et je l'ai utilisée pour aller voir la Thaïlande. Merci beaucoup à tous et à toutes. Il y a des gens qui écoutent LMK là-dedans. Je vous aime. Merci d'avoir fait ça pour moi. C'était merveilleux. Et vous recevrez bientôt une carte postale avec ma grosse tête dessus. toujours est-il que du coup, j'ai décidé de partir en Thaïlande. Je suis partie avec mon copain par un heureux hasard, on a des potes qui y allaient à peu près au même moment, donc j'ai même vu des potes là-bas, ce qui est vraiment un truc de ouf. J'étais en mode, mais j'ai la vie de Kim Kardashian, genre je suis avec mes amis sur une plage en Thaïlande. Et c'était trop trop bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un voyage assez loin. En fait, c'était même la première fois que je partais aussi loin pour une durée relativement courte, parce que je suis partie 2 semaines et demie. Et jusqu'ici, quand j'étais allée sur un autre continent, c'était en général pour y vivre quelques mois, ou alors c'était pour aller voir ma famille en Nouvelle-Calédonie. En général, pareil, c'était pour 2-3 mois minimum. Donc c'était un peu l'inconnu. C'était la première fois que j'allais en Asie du Sud-Est et en Asie plus globalement. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce qui va se passer. Je savais que de toute façon la Thaïlande c'était un pays qui est magnifique et qui est plein de richesses naturelles, mais qui est aussi plein de richesses culturelles. Tu vas dans des endroits où tu es dans la jungle et c'est magnifique et incroyable. Tu vas dans la ville, c'est magnifique et incroyable. Tu vas à la mer, c'est magnifique et incroyable. Enfin, vraiment, c'est ouf. La Thaïlande, ça fait la superficie de la France. Et il y a genre 130 parcs nationaux, alors qu'en France, t'as genre, je sais pas, 8 parcs nationaux. Enfin, je veux dire, le rapport entre les trucs naturels qu'il y a à voir est assez dingue. Et tout est aussi assez bien préservé. En tout cas, il y a un travail de fond politique qui est assez... assez impressionnant, de ce que j'ai vu. Après, je suis pas experte là-dedans, donc n'hésitez pas à me corriger si vous savez. Mais en tout cas, ouais, de ce que j'ai vu, les grands parcs nationaux sont enfin activement protégés, je dirais, et sont protégés notamment justement du tourisme de masse, qui est aussi un vrai truc en Thaïlande. Là, moi, j'y suis allée d'une manière un peu particulière parce que avec le Covid. Il y a beaucoup de restrictions pour rentrer et sortir sur le territoire. Nous, en tant que Français et membres de l'espace Schengen, il n'y en avait pas tellement. On a fait effectivement un test Covid avant de partir, histoire de ne pas leur filer à tous les gens qu'il y avait dans l'avion. Et pas saturer évidemment les hôpitaux là-bas. Et sinon, bah voilà, on est un peu arrivés comme ça sans qu'on nous demande grand-chose. Et pour autant, il y avait... je crois, à peu près 4 millions de touristes dans le pays, alors qu'en général, c'est 35 millions, ce qui est vraiment énorme dans un pays. Ça fait un tiers de population en plus, limite, pour un endroit comme la Thaïlande, quoi. Donc, on est arrivé à Bangkok avec mon copain, qui est une ville hallucinante. Pareil, mais j'aime bien voyager dans les grosses villes. J'aime bien les grosses mégalopoles et les gros bâtiments et tout. Là, j'ai été servie de ouf. Je sais pas, j'aime trop voir l'activité humaine dans ce qu'elle fait de plus gros, tu vois. Et là, à Bangkok, j'ai été vraiment, vraiment servie. Et en même temps, c'est une ville qui mélange plein d'architectures différentes. T'as d'un côté des espèces de gros buildings avec des rooftops sur des trucs de 50 étages et tout. Là, j'y suis pas trop allée parce que j'ai peur des ascenseurs, comme vous le savez. Donc, ça ne me sert à rien d'aller dans un gratte-ciel. Je resterai au rez-de-chaussée. Et en même temps, t'as aussi des bâtiments beaucoup plus petits. T'as des temples de partout. T'as des habitations qui sont très différentes de celles qu'on connaît en France. Bref, c'est trop beau et surtout t'as de la bouffe absolument partout et la bouffe en Thaïlande est délicieuse. Tu te balades dans la rue, t'as vraiment l'équivalent de 5€ en poche et après tu peux t'arrêter partout et tu peux tout manger et tout est délicieux et rien ne donne la tourista, en tout cas dans mon expérience personnelle. Bref, c'est une ville qui est passionnante, c'est aussi une bonne porte d'entrée pour essayer de comprendre un petit peu... la manière dont vivent les Thaïlandais, en tout cas de comprendre un petit peu le système politique en place, les manières dont s'exprime un petit peu la religion, par exemple, la religion animiste, parce qu'en Thaïlande, ils sont bouddhistes, c'est un des piliers de l'État, l'Église et l'État ne sont pas entièrement séparés. Et du coup, tu as aussi des marques en fait, du bouddhisme et de l'animisme, et du coup du respect qu'on donne notamment aux animaux, aux écosystèmes, aux arbres et tout, un peu partout dans la ville, c'est impressionnant à voir. La nature même dans la ville est assez ouf. Je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble un banyan. C'est des arbres énormes avec des racines qui remontent. Et du coup, tu as vraiment des arbres qui font la taille d'un immeuble, parfois en plein milieu de la ville, avec des racines de partout qui sont hyper riches. Ouais. Et puis du coup, des fois, les racines, elles cassent la route. Et puis c'est... ouais, grave. Bah ouais. Ouais, ouais. Enfin, après, je sais pas à quel point c'est vrai. Je pense que parfois, ouais, de ouf. Des gens qui gèrent la voirie, j'imagine que si c'est dangereux, on fait quelque chose. Mais en tout cas, il y a quand même une idée de construire autour et de prendre en compte la nature un minimum dans la manière dont on vit la ville et l'espace, quoi. Bref, je m'égare. Mais en tout cas, c'est une ville qui est très très belle et très très riche. J'ai découvert plein de trucs, appris plein de trucs, mangé plein de trucs. C'était trop bien. Ensuite, j'ai bougé un petit peu parce que c'était un road trip. J'ai essayé d'aller voir plein de trucs. Du coup, je suis allée au nord. Et là, dans le nord, tu pars de la grande ville et t'arrives dans un espèce de mélange entre la montagne et la jungle. C'est incroyablement beau aussi. Il y a des temples de tous les types, de tous les âges. Genre, tu tombes sur des temples qui ont 1000 ans et t'es là, oh là là, il est incroyable. Et après, tu tombes sur un temple qui a 30 ans et t'es là, quoi ? Il est incroyable. Et en plus, il y a Zidane qui est peint à l'intérieur. Ce qui est une vraie histoire.
Pourquoi non.
En gros, dans une ville du nord qui s'appelle Chiang Rai, il y a un temple très célèbre qui s'appelle le Temple Blanc. Et je peux même pas le décrire, mais en gros, c'est un... Ça fait 30 ans que l'artiste qui a créé ce temple y travaille. Donc, t'as un temple qui est fini, mais autour, t'as un parc qui est encore en construction et on y rajoute des choses régulièrement. Et en fait, c'est un temple qui est blanc et qui est hyper... Comment est-ce que je pourrais le décrire ? Je suis vraiment inculte en histoire de l'art en plus, donc je sais même pas si je vais pas dire une énorme connerie, mais... En France, on a des cathédrales gothiques avec plein de petites pointes et plein de détails qui dépassent un peu partout. Je sais pas si ça vous parle quand je dis ce genre de truc ou si je dis n'importe quoi.
Gothique.
Ouais.
Tout le délire gothique, c'est ça, non ?
Ouais, c'est ça, mais parce très que... chargé, tu vois. Il y a des gothiques qui sont moins chargés que d'autres.
Avant, t'avais les églises genre romanes, tu vois, genre au début où c'est tout plat, tout moche. Enfin, moi, j'aime pas du tout l'art roman, voilà, c'est dit. Boum, soumis. Et après, ouais, t'as l'art gothique et je pense que ça s'est plus ou moins développé en termes d'ornement. Il doit y avoir des écoles derrière, t'as des.
Exactement. Et du coup, les versions les plus chargées qu'on puisse avoir de ça me font penser à ce temple blanc qui
c'est
du
trop
coup,
beau, ça ressemble à des gaufrettes, j'adore.
Là, c'est un grand temple bouddhiste avec des pics qui dépassent de partout. Tout est d'un blanc hallucinant avec des petits morceaux de miroir dessus. Donc, ça se reflète avec le soleil. C'est indescriptible. En gros, tu arrives devant le temple, tu passes entre deux espèces de fausses énormes défenses d'éléphants. Et en tout cas, c'est à ça que ça fait penser, quoi. Des grandes choses qui sortent du sol. On dirait que le temple, il est fait en os. Et qu'il a poussé du sol. Et autour, t'as des œuvres d'art qui sont justement des espèces de têtes de mort ou de mains un peu osseuses et tout. Mais c'est pas glauque, c'est fait d'une manière spécifique. Allez voir White Temple Chiang Rai sur vos...
Et on vous mettra des images sur le compte Instagram de si Laisse-moi kiffer.
Je vous mettrai une photo de moi devant même. Non, c'est pas vrai. Mais enfin, si vous voulez, mais bon, une photo médiocre. Et donc, quand tu rentres, donc c'est un temple qui est très célèbre parce qu'il est très beau. C'est un point d'attraction touristique assez famous en Thaïlande. Et en fait, tu peux pas, t'as pas le droit de prendre en photo l'intérieur du temple. Mais quand tu rentres à l'intérieur du temple, t'as une très grande statue de Bouddha. Et souvent, dans les temples bouddhistes que j'ai pu visiter, t'as des peintures sur les murs qui retracent notamment la vie de Bouddha et des histoires bouddhistes un peu fondatrices, des mythes fondateurs du bouddhisme, quoi. Et là, en fait, l'artiste qui a dessiné ça, il a décidé d'ajouter des références à la pop culture parce qu'il a fait ça dans les 20 dernières années. Et du coup, au milieu, t'as, genre, quand tu regardes un peu le mur du fond, bah, si tu cherches un peu, t'as Alien, t'as Keanu Reeves dans Matrix, t'as Harry Potter, t'as des grosses références comme ça de pop culture, ce qui est assez étonnant et marrant. Je sais pas à quoi ça fait écho dans la pratique du bouddhisme parce que je connais pas assez la religion, mais...
C'est que des refs occidentales ? Où il y a d'autres références qu'on a. Après, il y a peut-être des références qu'on n'a pas. Ouais, c'est ça le truc
c'est
aussi.
Ça. C'est difficile. Déjà, même au sein des références occidentales, en vrai, moi, je ne les avais pas toutes. Il y a plein de choses que je ne savais pas. J'ai reconnu que
ça
les
se trouve,
références.
Il y avait
Roland McDan
et tu ne savais pas qui c'était. Quoi.
Mais c'est qui
Je sais pas qui c'est. C'est peut-être un mec qui ajoute des gens sur Facebook avec plusieurs comptes.
Encore un. C'est possible.
J'en suis sûre. Et donc voilà, moi j'étais en train de regarder ce mur en essayant de reconnaître des trucs. Et là, je vois Zinedine Zidane. Et en fait, c'est une peinture de Zinedine Zidane pendant la Coupe du Monde de 2006 en train
incroyable.
De mettre un coup de tête à Materazzi. Donc tu vois Materazzi et le gros front de Zinedine Zidane qui est posé dessus. Et ça, c'est dans un temple bouddhiste au nord de la Thaïlande.
Incroyable.
Et c'est... Vas-y, Anthony.
Non, je sais pas si c'est très propice au recueillement, mais ok, why not?
Bah, pour autant, en fait, c'est ça aussi qui est assez particulier, qui est assez particulier pour moi, qui suis française et qui vis en Occident, c'est que tous les temples que j'ai visités sont aussi des lieux de culte et des lieux où on pratique. Donc, en fait, t'as des gens qui sont en train de se recueillir dans le temple en même temps. Moi, je regardais ces trucs-là, mais... Enfin, t'as des touristes qui sont là pour regarder, mais t'es quand même tenu de te tenir... de manière respectueuse et en fait de pas gêner les gens qui prient à côté et en même temps de faire certains gestes ou de tenir d'une certaine manière qui respecte la pratique des autres quoi. Et en même temps t'as aussi plein de moines parce qu'en fait les temples en Thaïlande c'est des lieux de vie et du coup t'as aussi les moines qui y vivent, tous les animaux que les moines recueillent, donc t'as tout le temps plein de petits chiens, plein de petits chats, c'est trop cool. T'as des gens qui viennent pour prier, t'as aussi des gens qui viennent pour organiser des célébrations autour du temple, parce que la période où j'y étais, c'était une période... Quand je suis arrivée en Thaïlande, il y avait 3 jours de deuil national après le décès du de l'ancien roi, qui n'est pas le roi actuel. Mmh. Et à ce moment-là, quand j'étais à Shanghai, c'était plus ou moins autour de la prochaine pleine lune au mois de novembre. Et du coup, il y avait des célébrations aussi autour de ça. Donc en fait, tu avais des touristes qui étaient là et qui regardaient Zidane et qui profitaient du fait que l'endroit était magnifique. Mais tu avais aussi toute une vie autour. Et ils ont réussi à trouver un équilibre qui fait que l'un n'avait pas l'air de déranger l'autre. En tout cas, au moment où moi j'y étais, qui est, je le rappelle, un moment où il y avait 10 fois moins de touristes qu'en moyenne. C'est potentiellement beaucoup plus désagréable quand tu multiplies le nombre de touristes fois 10, mais en même temps, c'est vrai que c'était un truc qu'on voit peu. Enfin, moi, en France, en général, les grosses cathédrales ou les gros monuments religieux que je visite, t'as que des touristes à l'intérieur, t'as très peu de gens qui sont là pour prier, t'as très peu d'ancrage aussi dans la vie locale, parce qu'en fait, parfois, tu vois des gens qui se recueillent ou qui prient, mais tu vois pas forcément non plus à quel point la cathédrale ou l'endroit que tu visites influence la vie du quartier autour et participe à la vie communautaire. Là, c'était très visible et du coup c'était aussi hyper plaisant et agréable de voir ça. Bref, je parle des heures de ce truc là, mais en même temps j'y suis restée si longtemps et tout était si bien. Bref, c'était trop bien, je vous recommande 1000 fois d'aller à Chiang Rai si vous passez en Thaïlande. Et après je suis allée un peu plus au sud et je suis allée à la mer et j'ai retrouvé mes copains. C'était encore une fois trop beau, c'est indescriptible de dire à quel point ce pays est magnifique. Après, je suis allée dans la jungle. C'était trop beau. J'ai vu un éléphant en train de se promener dans la montagne. C'était incroyable. J'ai vu des monkeys. J'ai vu un ours qui était en train de jouer au bord d'un lac. Et tout ça, c'était pas dans un safari cringe ou dans un parc.
Ou dans un hôtel où tu dors.
Ou dans un hôtel où je dors avec un morse.
J'ai pas la ref, mais d'accord.
C'est l'épisode où Aïda racontait qu'elle avait pris une chambre d'hôtel en Belgique.
En Belgique.
Avec des morses.
J'ai pas tenté d'imiter l'accent, j'ai juste hésité, laissez-moi. Et, et du coup, il y avait un morse de l'autre côté de la vitre.
La vitre du fond de ma chambre d'hôtel, voilà. C'était un aquarium, dedans il y avait un morse.
Enfin, ça se trouve, le morse, il a fait un podcast du côté des morses. Hein, laisse-moi kiffer, où il dit j'ai dormi à côté d'Aïda, tu vois.
J'aimerais trop être une célébrité pour les morses.
Je sais qu'il y a des LMK suffisamment calés en LMK pour m'envoyer le numéro de l'épisode dans mes DM Instagram.
C'était un live Twitch. Du coup, tu peux le retrouver et sur YouTube et en podcast.
Je crois que le titre de l'épisode, c'est une blague sur les sextapes des morses, parce que j'ai vu des morses. Enfin, en fait, j'ai filmé les morses en me disant ah, ils sont mignons, et en fait, ils étaient en train de ken.
Contre la vie.
Je n'aurais pas compris non plus qu'ils étaient en train de ken. Je sais pas comment ça ken un morse, mais je ne veux pas savoir.
Maintenant, je sais. J'ai une vidéo dans mon portable.
Vidéo qui était publiée à l'époque sur le compte. Voilà.
Très nature peinture, on adore. Je vais devoir vous laisser.
Ah oh. Bisous Anthony,
fait pas mal.
N'oubliez pas de ritualiser votre sommeil.
Des
si
bisous.
Vous souhaitez, en tout cas.
On a parlé des heures.
Bisous.
Bisous.
C'est parce que vous
allez partir
au JT Mode. Essayez de regarder ça. C'est disponible en replay sur YouTube. Et sinon en live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle.
Oui.
Prenez regardez le JT Mode. Non, toujours est-il que ce voyage, il était vraiment incroyable et j'y ai vécu des trucs assez ouf. Et pour autant, j'en suis revenue avec encore plus de questionnements qu'avant de partir, justement sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du tourisme de masse, de la manière de voyager et tout. Je regrette absolument pas de l'avoir fait et je pourrais jamais shamer ou blâmer quiconque qui décide de faire ce truc-là, parce que moi, franchement, j'en suis revenue avec la tête pleine de trop de trucs positifs. C'est ouf d'avoir la possibilité, le privilège de voyager à l'autre bout du monde et en plus d'avoir le privilège financier en fait de se dire bah t'arrives avec tes euros d'occidental, moi je suis pas la reine du pétrole du tout, et pour autant bah en fait t'arrives avec ton privilège de la devise qui fait que en plus t'as une qualité de vie hallucinante une fois que t'arrives en Thaïlande, mais dans plein d'autres endroits du monde quoi. Et pour autant, c'était aussi la première fois que je voyageais de cette manière-là dans un pays dont l'économie repose autant sur le tourisme. Et c'est aussi perturbant, en fait, et il faut se le dire, et il faut, je pense, se poser des questions là-dessus sur comment ça se passe quand j'arrive dans un endroit où le centre-ville ou certains quartiers de la ville sont organisés que pour le tourisme, et où, en fait, les seules personnes que je croise qui sont thaïlandaises, c'est des personnes qui sont là pour me servir au sens commercial du terme, qui sont là dans les industries des services, où tout est écrit en anglais, où il n'y a rien en thaï. Enfin, c'est pas le cas partout. Ça a été le cas dans certains endroits que j'ai visités et pas dans tous. Mais voilà, moi, ça m'a questionnée. Je me suis dit, OK, ben en fait, là, je suis en train de participer à un truc qui me dépasse. Ma manière de voyager n'est pas, je pense, la plus... Bah, je sais pas, la plus massive, j'ai pas l'impression d'avoir un rapport au voyage qui est uniquement basé sur la consommation, sur le fait de profiter de certaines pratiques illégales en France qui sont faites pour encourager le tourisme dans certains pays. Je pense notamment au tourisme sexuel ou à des choses qui sont très graves et qui font partie du tourisme de masse, qui en ont fait partie aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas de chiffres sous les yeux, mais en tout cas, qui ont quand même fait partie du tourisme de masse en Thaïlande. J'ai pas l'impression de participer directement à ça. Et pour autant, bah, je sais que voilà, y a un impact écologique et un impact financier sur l'endroit que j'ai visité. Je sais pas. Franchement, je me pose plein de questions. Et si vous avez des réflexions là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer en DM ce que vous en pensez, ou des lectures ou des trucs comme ça sur OK, bah, en fait, c'est quoi les pistes pour essayer de pouvoir continuer à voir des trucs qui sont potentiellement loin de chez nous, pas forcément aussi loin, mais essayer de rester dans un rapport au moins un peu durable et qui soit pas que consumériste au voyage. J'ai pas de conclusion meilleure que ça à ce kiff, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ce que tout ça m'évoque. Et je sais que comme toi, ton kiff, c'est un kiff voyage, Mathis, que celui d'Anthony en était un aussi. Je me dis qu'on a peut-être des trucs à se dire là-dessus et des pistes de réflexion.
On peut faire une walk of shame, mais on sera trois.
Ouais, grave. Voilà, pardon pour ce long kiff, mais
c'est
la Thaïlande, c'est trop bien.
Intéressant. C'est trop
et
bien.
Toi, Mathis, c'est quoi ton kiff ?
Mon kiff, du coup, s'est passé donc, pendant le mois que j'ai eu d'absence. Donc, je rappelle, je me suis barré à la fin de mon alternance pour un mois de pause que j'ai négocié du coup, avec l'employeur en disant « je suis OK pour revenir, sans souci. Par contre, je veux un mois pour me poser et ne rien faire. » Enfin, ne rien faire, en tout cas professionnellement, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps puisque depuis le début de mes études, j'avais soit un job d'été, soit à partir du moment où j'ai vraiment commencé à me professionnaliser, des stages et puis s'enchaîner avec des alternances, etc. Ce qui fait que, à part les quelques vacances que j'ai pu poser, et encore, je ne suis pas du genre à prendre plus d'une semaine en général, ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas vraiment posé pour un voyage, quoi. Donc voilà, il se trouve que j'ai une amie qui m'a dit, donc une amie que vous connaissez d'ailleurs, qui est Paola, qui est intervenue dans ce podcast.
Oui,
un temps,
on l'adore, Paola
Serafin. Et qui a travaillé chez les podcasts de Mademoiselle, du coup. Qui a travaillé chez les podcasts chez Mademoiselle dans les podcasts. Voilà, vous avez absolument compris la fatigue. Et du coup, donc, cette personne se trouve être une amie parce qu'elle est dans le même master que moi et qu'on a sympathisé. Et donc, elle est partie sur un nouveau master d'études de genre et de médias à Montréal. Et elle nous a dit « Ah, ce serait trop cool que vous veniez nous voir » parce que du coup, donc, le « vous » étant une bande d'amis que je me suis fait dans mon master. Et je lui ai dit, OK, bah, tu peux quand ? Et du coup, elle fait, non, mais vous n'allez pas venir. Et en fait, jusqu'au dernier moment, globalement, elle ne nous a pas cru, quoi. Même quand on lui a envoyé nos billets d'avion, elle était en mode, mais attendez, vous allez vraiment venir ? En étant, meuf, on a un groupe de conversation qu'on a créé pour ça. Ça fait des semaines qu'il est actif. On parle de plein de questions relatives à l'hébergement, etc. On a un tableau Excel. Évidemment qu'on va venir. Donc, ce que j'ai fait globalement, c'est que on a fait un voyage, un peu découpé en deux. Et mon voyage, en fait, n'est pas mon kiff en soi. J'ai choisi d'angler mon kiff pour justement pas trop parler. Parce que du coup,
T'es trop fort. Moi, j'avais perdu l'habitude de venir dans LMK. J'ai fait n'importe quoi. Allez, on réenregistre l'épisode.
N'importe quoi comme ça, ça va. J'en veux bien à tous les épisodes. En tout cas, voilà. Moi, ce qui s'est passé, c'est comme sur les 15 jours, j'ai fait 5 ou 6 jours à New York et le reste du temps à Montréal. New York était à peu près au milieu du voyage. Et en fait, c'était assez idéal parce que les villes sont... pas en contraste, mais vivre dans les deux villes est vraiment différent. Et du coup, je trouve que Montréal, c'est une ville qui se vit plus qu'elle ne se visite. Et New York, je trouve que c'est le contraire. Genre, j'ai zéro envie de vivre à New York. De même que j'ai plus du tout envie de vivre à Londres et que je suis très content d'y retourner en tant que visiteur. Mais c'est des villes qui vont très très vite. Enfin, New York, typiquement, dans le coin de Manhattan, il y a très peu de cafés où tu peux t'asseoir. Et moi, qui ai cette grosse culture européenne du café où t'es content de juste te poser, ça me rend zinzin de prendre des gobelets emportés partout où je vais, tu vois. Donc voilà, bref. Donc Montréal, moi, c'est une ville que j'ai été visiter avec plein de choses préparées. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai énormément voyagé avec Camille, dont je vous parle souvent dans ce podcast. Et Camille est quelqu'un qui est extrêmement organisée et qui est extrêmement proactive dans tout ce qu'elle fait, notamment dans les voyages où elle a toujours son téléphone à la main avec Google Maps. Et elle cherche, et elle a toujours des adresses. Elle sait à peu près toujours où on va. Ce qui fait que, en fait, même si vous êtes quelqu'un qui prend des décisions, vous vous laissez assez vite porter parce qu'en fait, elle réfléchit genre 1000 fois plus que vous, elle recherche 1000 fois plus que vous, et du coup, vous êtes perdu, enfin, elle va trop vite, quoi. C'est pas possible. Et donc, je suis très content de suivre parfois, mais je suis content dans la vie parfois d'être un peu plus actif. Et là, on a voyagé à trois, donc Paola parfois avec cours, etc. Mais du coup, elle voyageait avec nous sur certains moments. Et avec une autre Camille, qui est une autre amie, du coup. Et il se trouve que j'étais le plus proactif du groupe et que moi, j'avais fait des recherches pendant des semaines avant mon départ. Et j'ai découvert, du coup, et c'est ça mon kiff, désolé pour cette longue intro, une chaîne qui s'appelle Propos Montréal. Et je fais une petite pause, vas-y. T'inquiète. Des bisous. De quoi ?
T'as mis pause ?
Ouais.
Magie, j'adore. Okay,
c'est la magie, les aléas du podcast.
Ouais.
Bisous.
Et donc, j'ai découvert cette chaîne qui s'appelle Propos Montréal, qui est à la fois une chaîne YouTube, une page Instagram, et je crois qu'il est présent sur d'autres réseaux sociaux. Et a priori, c'est un prof qui, en fait, parle de Montréal à travers des photos d'archives et qui, du coup, historicise certains endroits.
Ah, c'est trop bien.
C'est trop, trop bien. Et en fait, ce qui est assez parfait par rapport à ça, c'est que, en fait, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, bah, vous identifiez toutes les nouveautés, etc. Et vous ne voyez pas, en fait, toute l'histoire qu'il y a derrière, toutes les luttes presque sociales qu'il y a pu avoir aussi derrière certains aménagements urbains. Enfin, moi, c'est toujours la question que je me pose quand je vois des villes, bah, typiquement comme New York, mais aussi comme Montréal, où il y a des gros quartiers gratte-ciel avec des trucs super modernes. Je me dis, c'était comment avant ? C'était quoi avant que ce soit ça ? Qui habitait là ? Est-ce que des gens habitaient là ? Est-ce que c'était industriel ? Enfin, c'est des vrais questionnements. Et typiquement, je trouve ça passionnant quand j'habite dans une ville de savoir depuis quand mon bâtiment est là, c'était quoi à l'origine, etc. Donc, des fois, c'est glauque. Donc, des fois, on a peur. Enfin, j'ai été chez une pote à Londres et on s'est demandé si c'était pas un ancien hôpital. On était un peu terrifiés. mais du coup, là, il a fait ce travail-là avec plein de bâtiments. Et en fait, il essaie de superposer au maximum les images. Donc, des fois, vous balayez, vous reconnaissez juste le tracé des routes. Et en fait, les bâtiments ont complètement changé. Et surtout que Montréal, c'était une ville où il y avait le tram de base et maintenant, il n'y a plus le tram. Avant, par exemple, il y avait un funiculaire aussi parce qu'il y a un espèce de parc en hauteur qui a d'ailleurs été aménagé par l'architecte qui a fait Central Park. Et ce parc-là, en fait, le funiculaire a été arrêté bon, pour des raisons financières, mais aussi parce que les riches n'aimaient pas trop que les pauvres puissent aussi facilement accéder aux hauteurs. Parce que Montréal, comme beaucoup de villes, est une ville où les riches sont en hauteur. Et donc, il a fait une vidéo, notamment, que je trouve super intéressante sur YouTube, sur un monument d'architecture assez intéressant à Montréal, qui est Habitat 67. Souvent, quand on pense à des monuments, moi en tout cas, je suis très européen et en fait, j'étais jamais sorti d'Europe de ma vie. Donc, c'était une vraie première là-dessus. Je suis habitué à voir des choses très anciennes ou qui en tout cas ont plusieurs siècles dans les pattes, quoi. Et là, j'allais voir un monument en fait qui date de 67, comme le titre l'indique.
Pas 1767.
Et voilà. Et on est sur en fait un truc qui a été fait pendant une exposition universelle par un jeune architecte qui à l'époque avait, je crois, 21 ans, peut-être 22, qui s'appelle Moïse Safdie. Et qui a fait plein de choses depuis. Vous connaissez peut-être ce fameux truc à Singapour qui s'appelle le Marina Bay Sands. C'est un espèce de truc avec trois tours et une espèce de gros machin dessus qui ressemble à genre un hareng. Enfin, c'est pas très beau. Mais voilà, il a fait ce truc-là pour lequel il est très connu. Et donc, Habitat 67, c'est une de ses premières réalisations qui, en fait, est adaptée de son projet de mémoire. Et donc, en fait, toute la vidéo de Propos Montréal vous explique un peu les étapes de comment on en est arrivé à ce projet, c'est quoi les logiques derrière, c'est quoi les débats. Et évidemment, il y a des gens qui ont gueulé, qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette verrue ?» comme tous les projets architecturaux. Et du coup, en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que ça a été toute une réflexion. Comment dire ? En gros, il faut vous figurer des espèces de blocs qui sont superposés les uns aux autres, mais en laissant beaucoup d'air entre eux. Donc, ça fait des espèces de trucs un peu modulaires, un peu comme des Lego, tu vois.
Ouais, j'imagine un truc Ikea un peu.
Ouais, voilà, on est un peu sur un truc comme ça. Et en gros, l'idée, c'était de penser à un espace pour des gens qui, à cette époque-là, commencent à avoir ce besoin de la petite maison avec quatre murs, globalement, si possible, une petite haie autour, etc., un petit jardin, et pas de vis-à-vis, on n'a plus envie d'être collé à ses voisins. Et en même temps, en fait, ce problème de genre, ouais, mais il faut loger les gens sans trop faire d'étalement urbain, qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, il a cherché à densifier l'habitat, mais en essayant de garder ce truc de genre, chacun veut sa petite terrasse, etc. Donc l'idée, c'est qu'il y a... Je crois qu'il a essayé d'éviter les vis-à-vis entre voisins, mais en gardant les choses assez denses, assez resserrées sur un seul et même territoire. Ce qui, du coup, donne un truc assez surprenant.
Et du coup, ça a l'air ouf.
Mais oui, et c'est trop bien, du coup, de découvrir ça et d'arriver au voyage et de savoir à peu près ce que tu veux voir, de prévoir ta balade. Alors, il se trouve que la vie a plus d'imagination que toi, en général. Donc, souvent, ta balade, il y a des petites surprises que tu n'as pas prévues, comme par exemple le fait que Montréal est une ville très influencée quand même par le côté américain, on va dire, donc qui laisse place beaucoup aux voitures. Et moi, je suis un gros piéton dans la vie et beaucoup cycliste également.
Mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment... Enfin, tu vois, Anthony le relevait avec Athènes. Là, toi, tu le relèves par rapport à Montréal et... peut-être qu'à New York, j'imagine qu'il y a un tout petit peu plus de piétons, mais c'est quand même plus du métro que des gens qui se promènent.
Ouais, ça dépend des quartiers, beaucoup. Montréal, ça dépend des quartiers aussi. Mais typiquement, en fait, une fois qu'on est sorti du Vieux-Port, on a pris le pont Jacques-Cartier, qui est un espèce de gros pont en acier. Vraiment les ponts américains à suspension, tu sais, qui sont vraiment trop beaux. Et on s'est dit, bah, on va monter le long du truc, et comme ça, on aura une super vue sur la ville. Ce qui n'est pas complètement faux, nonobstant, c'est une autoroute. du coup, il y a une piste cyclable qui suit le truc et qui est séparée. Mais du coup, on marchait sur la piste cyclable et vraiment, les cyclistes nous regardaient en mode...
C'est
deux couillons, tu vois. Et vraiment, on était les deux couillons en mode « Yes !» Donc, ça a commencé comme ça. Et ça, c'était le début de nos ennuis parce que du coup, on est arrivé sur l'île qu'il y a en fait face au Vieux-Port, sur laquelle il y a le parc Jean Drapeau. C'est un vrai nom de parc. On dirait vraiment un nom que je donnerais à un Jean-Michel Random dans la vie parce que j'invente souvent des noms de type... Genre typiquement, la dernière fois, j'ai un pantalon que j'aime pas trop parce qu'il me donne l'air vraiment d'une brindille et j'ai dit je ressemble à Gentil. Voilà, bah, Jean Drapeau, pour moi, c'est une personne qui est inventée, ça n'existe pas. Je n'accepte pas que ça existe comme nom de parc. Voilà, bref. Donc on est arrivé sur le parc Jean Drapeau et il y avait genre personne parce qu'en fait, on est arrivé à une saison qui est genre la fin de la saison rousse. Donc c'est très joli niveau couleur, etc. Mais juste en fait, il n'y a plus trop d'événements. Enfin, ça commence à se cloisonner doucement, tu vois. Et en fait, il y avait personne au point qu'on s'est dit, mais est-ce qu'on a le droit d'être là? Parce qu'on était à pied, on était sur un espèce de parking vide, on était à Tchernobyl. C'est Tchernobyl. Et après, on a marché jusqu'à un pont en se disant, comme ça, on fait une boucle et on arrive à rejoindre le fameux Habitat 67 qui est en fait super loin des habitations du reste de la ville. Quoi. C'est vraiment la merde. À l'époque, il y avait un train qui passait devant, mais il ne passe plus. Et merci encore une fois à la chaîne de Propos Montréal, parce que c'est comme ça que j'ai appris ça. Et en fait, on s'est retrouvé sur un pont où l'espace piéton était fermé, donc on a fait trois fois le tour de l'entrée du pont pour comprendre comment on pouvait accéder. Et en fait, on y a accédé tout simplement en longeant la bretelle d'insertion à côté des voitures, en priant pour ne pas mourir.
C'est ce que j'allais dire, c'est que moi, je me suis dit exactement la même chose en Thaïlande et avec mon mec, on était en mode, mais attends, pourquoi il y a aussi peu de trottoirs et pourquoi on marche aussi souvent sur la route ? Et bah parce qu'en fait, aussi, pourquoi on se faisait tout le temps alpaguer quand on était en train de marcher et comment, enfin. Pourquoi, genre, dès qu'on marchait sur un trottoir, il y a des gens qui nous disaient « Eh, montez dans mon taxi, montez dans mon tuk-tuk et tout. » On se disait « Ah, bah, c'est parce qu'on a des têtes de touristes, ce qu'on est, tu vois. » Et en fait, non, c'est juste que personne marche. Et on était là, mais en fait, les trottoirs, c'est trop bien. Aimez et chérissez les trottoirs de France.
Oui, c'est ouf.
Chérissez le fait qu'on puisse se balader à pied un peu n'importe où. En vrai, c'est quand même... Enfin, il y a des endroits qui sont moins accessibles que d'autres à pied en France, mais on peut tout faire.
Ouais.
À peu près tranquille, on est sur des petites distances et tout, c'est trop bien. Et moi, je suis revenue à Paris en me disant, j'adore marcher à Paris, j'adore cette ville et tout, parce que j'ai plus peur de me taper une voiture, parce que je suis sur un bord de route, à côté d'une bande d'arrêt d'urgence.
On va pas se mentir, moi, je déteste ce truc, une fois que je franchis une putain de frontière, de faire, est-ce qu'il y a la priorité piéton ? Parce que ça, moi, c'est ma règle d'or. Moi, j'ai pas peur des voitures, du coup. Donc, je dis ça peut-être ironie tragique. Peut-être dans 2 ans, je suis décédé, écrasé. On verra. En attendant, pour l'instant, j'ai pas peur des voitures. Et du coup, je traverse très souvent en mode oui, bah, de toute façon, j'ai la priorité. Enfin, je veux dire, s'il y a pas de feu, donc, mademoiselle, nos locaux sont sur le boulevard de Sébastopol où les gens roulent globalement comme s'ils avaient une vie très courte. moi, je suis
en
mode.
En même temps, très longue vu les risques qu'ils prennent. C'est
ouais, c'est un peu ça. Et du coup, bah, souvent, je traverse un peu en mode. Ouais, bah je sais pas, je regarde droit dans les yeux le conducteur et je suis en mode, bah si jamais je meurs, c'est la dernière chose que tu verras et tu dormiras pas pendant très longtemps. Donc c'est pas grave, on sera quitte.
C'est sur la pyramide, on est les plus fragiles en tant que piéton, du coup.
Voilà. Et du coup, j'y vais à la confiance. Exactement. Et du coup, en plus, je fais pas nimp, je m'engage juste sur un passage piéton. Légalement, ils doivent s'arrêter. Je suis en mode, bah tu vas t'arrêter, on va faire ça. Donc des fois, je me fais klaxonner et puis. Selon mon humeur, je réponds plus ou moins cordialement. Et donc voilà, donc quand j'arrive à l'étranger, je suis vraiment, je ne sais pas si j'ai le droit de passer, du coup, si je dois attendre 7-8 ans. Et bon, il y a la plupart des villes, du coup, mettent des feux, donc c'est quand même assez clair normalement. Mais voilà, donc il y avait vraiment ces moments d'errance. Et donc, on a fini par voir le fameux Habitat 67 après avoir marché 12 ans, du coup. Et c'était assez cool à voir, juste on a dû longer le fucking port pendant, je pense, bien 40 minutes avant de retrouver le vieux port piéton. Montréal, enfin bref, voilà, un grand moment, une grande épopée, mais c'était intéressant mine de rien de passer dans une zone industrielle.
Love Lazare.
Il faut savoir si vous voyagez ou vous vivez avec moi, en général, j'adore me balader un peu au hasard et il y a toujours un moment de la balade qui est un peu claquos. Et en voyage, moi, j'ai un peu cette règle d'or de il y a au moins une journée où tout est raté. Et quoi que tu fasses, ça marche pas. C'est comme ça. Ça ne marchera pas. C'est cette journée-là, tout pue du cul. Tu vas dans un endroit, c'était super bien noté, c'est pas bon.
Ou alors c'est fermé.
Ou alors c'est
juste
fermé.
Juste le jour où tout est fermé de manière
mais
incompréhensible.
Oui, mais oui. Et tout est aligné pour que ça se passe mal.
Ouais,
genre,
grave.
Et je suis étonné que.
Et après, t'as l'impression de rater ta vie parce que tu te dis pourquoi je suis en vacances et je suis pas heureuse. C'est horrible. Je l'ai trop mal. Je l'ai vu trop mal ce jour-là.
Et là, il y avait ce moment où on est content d'être à deux, on est content de bien s'entendre parce qu'en plus, tu peux commencer à t'engueuler avec la personne potentiellement à ce moment-là. Ça n'est pas arrivé. Il faut savoir que je vous reparlerai dans LMK parce que j'ai 30 000 kiffs d'avance. Je suis au bout de ma vie, je kiffe trop de choses. Finalement, je suis heureux. que du coup, je vous en reparlerai, mais genre à New York, typiquement, j'ai loupé le bus du retour parce que du coup, New York, c'était pas si loin de Montréal. On avait un bus de nuit et le bus du retour, moi je suis un giga blaireau, pour moi minuit c'est zéro, tu vois, pas 12. Et sur le billet du bus c'était marqué 12, donc moi je suis arrivé à 11h à la gare routière et j'ai fait oui, il est où le quai du bus? Elle nous a dit c'était il y a 10h, vous êtes des glands. Et j'étais en mode non. Et du coup, voilà, là ça a été le début de la mauvaise journée, on a dû rester jusqu'à super tard pour choper le prochain bus. Enfin voilà, ce genre de journée.
Ah, mais oui, parce qu'en plus tu devais avoir 12 a.m. Mm-hmm. Et en fait,
mais 12 a.m. pour moi, c'est le midi.
Ça a l'air d'être le matin, parce que le midi, c'est le matin. Oui. Et en fait, non, c'est 12 p.m. parce que l'après-midi commence à 12h01.
Ouais, ça me rend fou. Ça me rend fou, ça n'a aucun sens. Si quelqu'un peut faire une pétition, je signe. Parce que je ne veux pas l'écrire, j'ai un peu de la fatigue. Mais ceci dit, la nuit, pour s'endormir, je rédigerai ce début de pétition sur le 12 a.m. qui n'a aucun sens. Voilà, toujours est-il que propos Montréal pour découvrir des choses sur Montréal, c'est super intéressant. N'hésitez pas à me faire savoir s'il existe des chaînes similaires pour d'autres villes, notamment pour Paris, moi ça m'intéresse beaucoup, mais aussi pour Lyon, pour Londres, pour des villes où j'ai pas vécu aussi accessoirement. Je vous avais conseillé Jay Foreman qui parlait pas mal des aménagements urbains à Londres, etc. Voilà, ce genre de contenu, j'en suis hyper friand. Et j'aime bien aussi quand ils font des comparaisons entre les villes. Typiquement, il y a la ville en Allemagne, je me souviens plus comment elle s'appelle, où ils ont le fucking métro suspendu. Je veux trop y aller juste pour voir le métro. Ça me rend zinzin barge, mais vraiment. Il y avait justement, du coup, quand j'étais à New York, j'étais au MoMA, il y avait une expo où ils passaient le trajet en mode immersif, genre, tu sais, comme quand t'es devant dans la ligne 1 ou la ligne 14 ou la ligne 4, qui du coup, pour les gens qui ne sont pas parisiens, sont les lignes automatisées de Paris. Et donc, en fait, vous êtes à la place du chauffeur qu'il n'y a pas parce que c'est automatisé. Et donc, vous avez l'impression de maîtriser le monde. Et donc, ils avaient placé une caméra dans ce musée, dans cette espèce de truc qui survole la ville, quoi. Parce que c'est les métros suspendus. Et du coup, il y a toute une ville comme ça. Et donc, c'est des vieilles images parce que c'est un des premiers. Et du coup, c'est trop beau à voir. Et je suis resté des heures devant le truc comme un gamin perdu dans un supermarché. C'était vraiment génial. Tout ça pour dire que, du coup, envoyez-moi toutes les vidéos qui ont vaguement un lien avec l'urbanisme, les transports, etc. Parce que moi, ça me rend très heureux. Et j'arrive en voyage en ayant l'impression de comprendre un peu mieux les dynamiques de la ville. Parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de très historique dans ma perspective. Je m'en fous un peu de savoir quand les Mérovingiens sont arrivés, ont planté une galette et puis ils ont tué le roi machin parce que c'était le frère de Philippe. Enfin, je m'en fous. Vraiment. Par contre, ce truc de genre ces 15 dernières années, on s'est battu pour que ce quartier ne change pas. Et en fait, il y a tel un plan d'aménagement urbain qui a jarté telle population, etc. Enfin, moi, tous les processus de gentrification et tout, je trouve que c'est des processus qui sont évidemment graves, mais du coup passionnants à étudier, parce qu'en fait, on retrouve des mêmes logiques dans différentes villes, mais adaptées à différents contextes locaux. Et puis, il y a des enjeux qui s'adaptent vachement aux différentes populations et du coup à différents enjeux de race, de classe et même de genre aussi. Enfin, il y a plein de dynamiques qui sont en fusion et my sociological brain is exploding globalement. Donc voilà, c'est des choses qui me rendent très, très, très heureux. Et voilà. Parce que bon, on n'a pas les moyens de se payer un guide sur place, donc YouTube quoi. YouTube, TikTok, tout ça c'est chouette. Voilà, voilà.
Merci pour ce kiff, Mathis.
Eh ben merci à toi et
merci pour cet épisode spécial.
On a fait une heure et demie.
On est content et on se pose des questions.
Oui, c'est vrai. On a fait une heure et demie à trois. On est les boss du game.
En fait, peut-être que moins on est nombreux et plus on parle. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse LMK à 6 pour que ça dure 30 minutes.
Ou tout seul. Ce serait vraiment un TED Talk de 5h30 sur ce petit kiff.
Ah, j'ai trop hâte. Merci les LM Crado, j'étais trop contente
bisous.
De revenir dans LMK. Je vous
oui,
aime toutes
c'est
et
c'est le
tous.
Retour.
Et bisous.
Des bisous, prenez soin de vous et parlez-nous de vos questionnements de voyage, de vos conseils, tout ça, on prend tout et on a hâte d'entendre de parler de tout ça. Des bisous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.